Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Et ben voilà. Salut Guirec, comment vas-tu?
Bah écoute, la patate, ça va bien. Bon, je veux pas te mentir, je suis à Paris, je suis pas très heureux à Paris, je suis mieux en Bretagne. Mais bon, et je suis content de faire ta rencontre, franchement.
Bah écoute, moi également. Comme je te l'ai dit, c'est un épisode un peu particulier pour moi parce que ça tombait à pic qu'on se rencontre parce que je pars dans quelques jours pour ma première vraie croisière en mer, tu vois.
Ouais,
pour...
tu fais la route du Rhum, c'est bien ça?
J'aurais bien aimé être une petite souris sur ton bateau. T'as pas besoin d'un cadreur ou d'un...
c'était vraiment discret, on peut peut-être trouver un arrangement.
Je peux me transformer en poule.
Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu fais des œufs.
On peut se débrouiller. On peut se débrouiller. Mais non, ouais, comme je te disais, c'était un épisode hyper particulier pour moi parce que j'adore les skippers. J'ai vraiment été piqué par le virus avec tous les skippers que j'ai pu rencontrer.
Yes.
Toi, c'était un régal de préparer l'interview parce que t'as documenté tout ça et avec le point de vue de quelqu'un qui explore, qui débute aussi.
Complètement.
Donc vraiment génial. C'était un casse-tête à préparer cette interview. Je savais pas de quoi on allait parler.
Ouais, j'ai bien de quoi. Bah, écoute,
donc on va se régaler aujourd'hui et puis c'est la sortie de ton livre justement où tu traverses. Alors ta dernière grosse aventure en date, mais il y en a plein qui arrivent de nouvelles, où t'as traversé l'Atlantique à la rame à l'aller et au retour.
Yes.
Et ça très 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 peu l'ont fait. Il y a combien de Français qui l'ont fait?
Oula, je peux pas te dire. Je peux pas te dire, mais en tout cas ouais, l'année dernière j'ai passé un peu plus, enfin 180 jours exactement, donc la moitié de l'année quand même en mer sur un petit bateau. Donc autant dire que je connais un petit peu tous les recoins de l'Atlantique, quoi. Faire un petit bouquin là-dessus, je pense.
Tu l'as vu en plus sous tous les angles, que j'ai compris que tu t'étais retourné quelques fois.
Exactement.
Donc on va en parler, j'ai beaucoup de choses à dire. En tout cas, je me suis régalé sur le bouquin parce que c'est écrit avec une pêche, tu vois, et un panache qu'on n'a pas l'habitude de lire, tu vois, et notamment là en ce moment, bon, forcément, je suis en contact avec les attachés de presse, tu vois, et il y a souvent il y a des co-auteurs, et là on sent que c'est toi, quoi. Tu vois, on sent que il y a eu des relectures sûrement.
Je me suis fait des. Non, mais clairement, moi, enfin, tu vois, je pourrais pas écrire un livre tout seul, c'est juste impossible. J'en ai fait d'autres avant sur ma première aventure, et en fait, je manque de concentration, de discipline pour ça. Et après j'adore raconter mes histoires, mais c'est vrai que j'ai un peu la bougeotte. Donc si j'ai pas du monde autour de moi, je ferai rien, quoi.
Ouais. Bon bah très clair. Et bon bah, on va en reparler de tout ça. Dernière chose, pourquoi c'était un peu particulier, c'est je t'avais dit, j'avais interviewé Stéphane Brognard et Pierre Matalski qui ont aussi traversé qu'une fois l'Atlantique.
Ouais.
On a fait le retour et qu'on fait le côté le plus facile.
Ils ont eu bien raison, je crois.
Stéphane était parti avec mes podcasts sur son bateau, il avait écouté un épisode par jour pendant sa traversée. Donc c'était cool. Et en fait quand il est revenu, c'est lui qui me posait les questions. Donc écoute, si tu t'embêtes pendant la route du Rhum que tu prépares et qui démarre le 6 novembre, bah, tu peux te télécharger quelques podcasts. Il y en a des sympas avec des skippers. Mais
carrément. Bah ouais, non, mais faut que je fasse ça. Absolument, faut que je prenne le temps. Ouais.
Bah tu me diras, j'ai des questions un peu sur le bateau, comment tu t'occupes et tout ça, et comment vaincre la solitude.
Ouais,
parce
ouais.
que je te vois crier et chanter sur tes vidéos. Bon, du coup, ça fait plein de sujets. Mais avant tout, il y a une question. Normalement, il y a une question traditionnelle sur le podcast, mais là, je demandais sur Instagram.
Oui.
Qu'est-ce que je demande à Guirec?
Ouais.
Et je crois que j'ai eu au moins 20 personnes qui m'ont dit « Comment va Monique ?»
Bah évidemment, il y en a que pour elle, hein. C'est bien connu, quoi. Écoute, elle va bien. Monique, elle vieillit un peu, forcément. Tu vois, elle est à pas loin de 9 ans, là. L'espérance d'une poule, c'est quoi, 8 ans, 10 ans, 13 ans, parfois 20. Mais c'est quand même assez rare, parce que souvent, en fait, quand elles arrêtent de pondre, bah malheureusement, on les tue pour les bouffer.
Ouais.
Et là, bah elle pond plus du tout, c'est clair. Mais elle est toujours là, toujours vaillante, avec ses copines dans le poulailler. Et là, bah, elle fait plus trop d'aventures parce que, voilà, elle passe la main, quoi. Elle pourrait, mais heureusement que tu es sur la dernière, beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi tu l'as pas emmené sur ton rameur? Mais pourquoi? Mais regardez la taille du bateau. Mais non, en fait, elle aurait pas survécu, mais vraiment, quoi.
Ouais.
Parce que déjà, moi, j'ai failli pas revenir, mais alors elle, laisse tomber, quoi.
Ouais.
Donc, on a fait une première aventure juste, mais exceptionnelle ensemble, qui a duré 5 ans. Là, elle avait de la place sur le bateau. Pendant les escales, je pouvais la sortir et tout. Là, c'était un vrai régal. Mais là, ça aurait pas été sympa.
Non. Les conditions étaient beaucoup plus extrêmes, tu vois, et ça s'entend dans tes contenus, c'était plus dur.
Donc écoute,
elle va bien.
Elle va bien. À fond, on peut l'appeler tout à l'heure si tu veux, on peut faire un petit vidéo avec Momo, il y a pas de problème, quoi. Elle est connectée.
avec plaisir. Et ouais, j'avais vu effectivement que une fois qu'une poule pondeuse arrête de pondre. Effectivement, on les tue, et elles sont pas toujours comestibles d'ailleurs ou utilisé dans le commerce.
Ouais.
Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une boîte qui crée des maisons de retraite pour les poules.
Oui, en effet. Ça existe. Non, mais c'est vrai. Bah non, mais parce qu'il y a pas de raison, tu vois, qu'elle puisse pas continuer à vivre.
Ouais.
C'est comme la ménopause, quoi. Tu vois, c'est pas parce que tu peux plus avoir d'enfants que t'es censé disparaître, quoi. Merde, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi, tu vois.
Exactement.
C'est ce que peuvent avoir les poules au bout d'un moment, quoi.
Ouais. Mais tu sais que j'étais surpris parce que quand je t'ai découvert justement pendant la traversée, moi j'avais retenu sur les poules qu'elles avaient énormément de mal à vivre seules. Tu vois, et que c'était un animal qui détestait la solitude. Je savais pas du tout.
Ouais.
Je me suis dit, dis donc, tu dois être de bonne compagnie alors.
Non, mais en plus, je pense que c'est possible. Mais surtout, c'est vraiment des animaux très attachants. Et moi, Monique, à un moment où elle avait fait une vraie déprime, c'est quand je l'ai laissée, tu vois, pendant 2-3 semaines. Et là, elle s'est laissée mourir, quoi, tu vois, parce qu'elle était plus à côté de moi. Et quand je suis revenu, tu vois, c'était un moment où j'ai fait une escale à San Francisco. Okay. Et je l'ai retrouvée vraiment avec une petite mine, quoi.
Ok. Ouais. Ouais. Et tu faisais quoi à ce moment-là, toi?
Et à ce moment-là, bah, je revenais parce que j'étais en train d'écrire des bouquins, du coup, sur ma première aventure. Donc, j'avais dû revenir en France. Ouais. Donc, je l'avais laissé parce que moi, c'est hyper, en fait, on s'en rend pas compte, mais de voyager avec une poule, c'est très galère, quoi. Non, mais vraiment, j'ai même fait de la prison et tout, quoi.
Ouais, je sais, mais je voulais que tu me racontes, c'était dans mes notes. Mais raconte cette anecdote, quoi.
Non, mais enfin, bon, des anecdotes, il y en a quelques-unes. Non, mais en fait, si tu veux, c'est pas commun, en fait, d'avoir une poule sur un bateau. Tu vois, les gens qui voyagent sur un voilier, s'ils ont des animaux, c'est un chat, un chien. Mais c'est vrai qu'ils ont peur de la grippe aviaire, par exemple. Et moi, il y a des endroits, des pays que j'ai strictement pas pu faire. Et d'autres endroits où je savais que c'était un peu limite, donc je préférais rien dire. Par exemple, je pense au Canada. Donc, tu vois, ma première escale, en fait, au Canada, c'était à Halifax.
Ouais.
Et là-bas, tu vois, les customs étaient venus à bord, ils avaient l'air hyper sympas. Et je leur disais, maman, pour rigoler, ouais, j'ai une poule aussi sur mon bateau. Ils font, je dis, mais regardez, elle est juste derrière vous. Et ils la regardent, ils font, oh putain. Ils disent, ok, bon, on a rien vu et tout. Enfin, tu vois, je leur montre 2-3 magazines dans lesquels était Monique et tout. On rigole. Et puis voilà, ça se termine comme ça. En fait, ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Et puis après, je pars au Groenland. Tu sais, je fais mon hivernage. Je suis resté un an au Groenland. Et le projet, c'est de partir faire le passage du Nord-Ouest.
Ouais.
Et là, en partant du Groenland, je rencontre un bateau qui me dit, bah, écoute, pour faire ton entrée, donc tu dois te déclarer au niveau des customs, tu t'arrêtes à Pointland, un petit village de pêcheurs, t'as même pas de ponton, tu poses ton ancre.
C'est au Groenland, ça.
Alors ça, Pointland, c'est au Canada, c'est la frontière. Au Canada. Okay. Ouais. Mais moi, quand je rencontre cette personne qui me dit de m'arrêter à Pointland, c'est au Groenland.
Ouais.
Donc là, je traverse la mer de Baffin, tout ça. Enfin, ça, c'était pas forcément évident de naviguer aussi dans le nord, mais peut-être qu'on en reviendra
là-dessus,
quoi. Mais donc j'arrive exténué parce que pas de pilote automatique, machin. Donc j'étais à la barre pendant 6 jours, une semaine, j'ai pu. Le chiffre exact.
L'enfer, quoi.
Ouais, dur. Hallucination à bord. Je pensais qu'il y avait du monde sur mon bateau, que je cherchais. Alors qu'en fait, j'étais strictement seul, en fait, tu vois. Ah, non, mais c'est vrai que le sommeil, c'est hyper important. Hein, ouais. Vraiment, on s'en rend pas compte.
Là, t'as dormi zéro pendant 7 jours?
Si, j'ai dormi, je pourrais pas dire, en fait, je m'endormais à la barre. Parce que, le problème, c'est que si j'étais pas à la barre, le bateau, il pouvait pas avancer. Et je voulais vraiment profiter d'avoir une bonne fenêtre météo pour tracer. Je voulais pas me refaire prendre dans la glace. Pas choper une sale tempête parce que j'ai eu du mauvais temps en Groenland et quand t'es tout seul c'est quand même pas évident.
Ouais.
Et puis j'étais mort quoi, j'en pouvais plus vraiment et tu vois je me souviens de moments où genre dans le brouillard et là d'un coup bam je me retrouve en face d'un iceberg de 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres et là je fais oh putain il y a la côte et tout et là tu vois je tire sur ma barre d'un coup sec pour me dégager là je me dis oh mais non mais c'est des icebergs et tout enfin bon c'est pas terrible de rentrer sur un iceberg ça m'est arrivé mais tu vois c'est moins méchant que la côte de t'échouer quoi et j'étais et c'est vrai que ouais non c'était dur mais bon pas grave tu vois enfin voilà de toute façon c'est le jeu et j'arrive à Pointland donc là je pose mon ancre. Je mets mon annexe à l'eau, je descends à terre, je vais voir les customs directement, parce que là-bas, je sais qu'ils rigolent pas, j'avais rencontré des gens, tu vois, qui avaient chopé genre $1000 d'amende, parce qu'ils étaient pas allés directement voir les customs, ils avaient commencé par les boire un coup, prendre une douche, enfin, je sais plus, mais dans le passage nord-ouest, pareil.
Rien de grave, mais
c'est un peu des cow-boys, les mecs, quoi. Vraiment. Bah, il se passe pas grand chose là-bas, donc ils sont contents, en fait. Il y a un peu d'action, non, mais c'est vrai, quoi.
Ils voient un petit Frenchie arriver avec une poule.
Ah, bah, là, on va se le faire, quoi.
Ah, ils ont sorti les pistolets direct, quoi.
Ah, non, mais vraiment, quoi. Donc, ça veut dire que j'arrive, donc je vais les voir et là ils me posent des questions. Bah d'où vous venez? Ok, machin, de Groenland. Vous êtes français? Est-ce que vous avez des choses à déclarer? Bah non. Des armes à feu? Bah non. Des animaux? Bah non. La drogue? Bah non. Des plantes? Bah non. Bon, on va venir sur le bateau? Ah bah non. Bah si. Ah merde. Bon bah on y va alors. Et là je les emmène et là ils étaient 2 ou 3 sur le mon dinghy. 2 sur mon dinghy. Et là je me dis ok c'est pas grave, t'inquiète. Le temps qu'on débarque, tu les laisses sur l'annexe, toi tu montes sur ton voilier, parce que j'avais une arme à feu à ce moment-là, tu vois, pour me protéger des ours et tout, je me dis tu planques ton arme, la poule, bah, ça va être compliqué parce qu'elle se baladait sur le pont. Et en fait, c'est pas du tout passé comme ça, quand on est arrivé à la coupe de mon bateau, ils m'ont dit bah là, toi tu restes avec ce custom là, et lui il monte, et il va faire un tour sur ton bateau. Là, le mec il ressort avec ma carabine, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, genre, mais il a pris pour un terroriste, quoi, vraiment. Et là, il voit la poule se balader, non mais c'est quoi ce bordel, quoi, on est où, quoi. Et là, je dis bah oui, mais en fait, bon, bah, j'ai dû répondre un peu trop rapidement à vos questions. Je suis très fatigué. Ils me disent non, mais là ça va pas. Tu nous as menti. Ouais. Donc à partir de maintenant, ton bateau il est confisqué. Il appartient au gouvernement canadien, quoi.
Okay. Ouais.
Et là les mecs arrivés à terre, ils me menottent et tout. Mais là ils m'envoient en cellule, quoi. Ça m'était jamais arrivé de ma vie, quoi. Et là, tu vois, dans ma tête, tu vois, je souris, je me dis, mais c'est une blague et tout, je sais pas, enfin, c'est pas vrai, quoi, tu vois, je suis encore en train de naviguer, en fait, je suis complètement...
Ils essaient juste de t'intimider, ou tu te dis, ouais...
Bah, ouais, non, mais tu vois, enfin, et puis là, ils me disent, bah, en gros, donc, t'as deux options, le bateau, tu le récupères, si tout se passe bien, mais tu fais demi-tour, le Canada, pour toi, c'est fini, et si ça se passe, bah, vraiment pas bien, bah, tu repars chez toi, en France, avec un avion, et ton bateau, il reste ici. Ah, ouais, ok. Et je reste comme ça plusieurs heures dans la cellule. Mais j'écrase, j'étais explosé. D'un côté, il y a un petit matelas confortable. J'étais au chaud et tout. Oh, c'était pas mal quand même. Et puis, il y avait un terrier à côté, la curlée dans la cellule. Ouais, ouais, mais
bah, c'est un radiateur.
Ah ouais, non, mais ça fait du bien quand même. Et puis là, je me fais réveiller dans ma cellule et ils me font sortir. Ils me passent quelqu'un au téléphone, un mec assez chouette. Et je lui explique la situation. Et comme quoi, bah, voilà, je suis pas bien méchant. Ouais, je suis un jeune breton qui essaye de naviguer. En effet, oui, j'ai une poule, mais voilà, c'est juste pour avoir des œufs. J'ai une arme, c'est pour me défendre. Ça, ils le comprennent tout de suite. Il me dit, ok, bah, écoute, t'as de la chance. Tu vas pouvoir récupérer ton bateau. Tu vas pouvoir continuer.
Ok.
Et là, je me dis, ok, bon, trop bien. Je les remercie. Sauf que ça, c'est le mec que j'ai au téléphone qui me savait. Sauf que les customs, ils étaient pas d'accord. Tu vois, ils étaient très vénères.
Ouais.
Qu'on me laisse repartir comme ça. Vraiment.
Ah ouais.
Et donc bah voilà, ils me rendent ma carabine, je retrouve Monique et je continue ma route.
Tout est bien qui finit bien.
Ouais, ouais, ouais.
Une petite sueur.
Ouais, petite sueur, ouais, vraiment.
Est-ce que tu réagis aussi bien, tu vois, toi t'adores l'aventure. J'aime bien
ouais, une phrase
que tu dis souvent, c'est l'aventure commence là où les péripéties commencent quoi, ou en
ouais,
gros.
Ouais, bah moi enfin ce que j'aime bien dire c'est que pour moi l'aventure commence quand les problèmes arrivent
oui,
quoi.
Exactement.
Ouais, ouais, c'est ça.
Et là t'as beaucoup de problèmes du coup techniques sur un bateau, de navigation qui sont vraiment liés, tu vois, à l'aventure propre.
Ouais.
Est-ce que tu t'arrives à gérer avec autant de sérénité et d'enthousiasme, tu vois, quand c'est un problème beaucoup plus d'ordre administratif, humain, tu vois, presque politique, j'ai envie de te dire.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce que tu l'abordes de toute façon ou est-ce que t'as un peu plus peur, tu vois, au contraire, j'ai plus l'impression que ça te fait encore plus sortir de ta zone de confort parce que.
Bah,
ça change.
Ouais, c'est sûr que c'est, ouais, bah, comme tu dis, ça n'a rien à voir, un problème technique à bord, ça, c'est courant, ça, moi, j'aime ça, mais c'est vrai que.
Et t'en as eu un paquet?
J'en ai eu un paquet, ouais, ouais, je pense que c'est pas fini, mais en effet, j'ai essayé d'anticiper, bah, même, tu vois, pour les États-Unis, je savais qu'il fallait faire un visa en amont, machin, mais les États-Unis, pareil, tu vois, la poule, elle était pas acceptée, je l'avais planqué dans les fonds de cale, les customs, ils étaient venus à bord, j'avais mis de la musique et tout, parce que là, je savais que, enfin, c'est pareil, quoi, ça pouvait vraiment, non, mais. Et c'est vrai que ça c'est pas rigolo et tu vois en Polynésie je devais partir en Polynésie j'ai ouais. fait la une du journal là-bas la dépêche comme quoi bah si Monique venait il la tuait et moi je partais en prison et donc bah tu vois j'ai dû changer d'itinéraire pour ouais. ma poule quoi
ouais. Ouais.
Et comme quoi je l'aime quoi tu vois, quand même, non mais c'est vrai
non, et puis elle te rajoute une énorme part d'imprévu en fait
ouais ah bah oui c'est sûr mais à la fin si tu veux l'aventure elle s'est médiatisée un petit peu quand même et les gens étaient de plus en plus au courant. Et ouais. donc bah ouais, il y a des endroits où ils se méfiaient énormément, donc ça devenait un petit peu compliqué. Franchement, j'ai ouais. énormément de chance d'être rentré en vie avec Monique et mon bateau qui flotte quoi.
Ok.
Ouais,
tout ouais. ça à cause d'une poule, mais
ouais,
c'est incroyable. bon bah écoute, c'est trop cool, mais j'ai quand même envie de comprendre parce que tu vois, j'ai lu ton livre, j'ai regardé toutes tes vidéos et tout, et donc bon, forcément, je te pose des questions, donc je sais un peu la réponse.
Ouais.
Mais faut que je fasse profiter les auditeurs. Je suis pas égoïste. On partage ici. Mais tu vois, j'ai eu moins d'infos sur qui t'étais quand t'étais plus jeune.
Ouais.
Tu vois, vraiment. Et je me dis, est-ce que t'étais un peu du genre casse-cou? Est-ce que t'étais, tu vois, le bon élève à l'école, ou au contraire que tu préférais aller sécher les cours et aller crapahuter quelque
ouais.
part? Mais du coup, la première question que je pose normalement, c'est quel est ton premier souvenir de sport et d'aventure?
Yes. Bah écoute, mon premier souvenir de sport, bah là. Comme ça, j'en ai pas, mais j'ai toujours fait du sport, ça c'est sûr. Donc j'ai eu la chance de grandir sur cette île en Bretagne. Je fais beaucoup de planches à voile, plus jeune, beaucoup de sports de glisse en fait.
Okay.
Du surf, du wake, j'aime beaucoup la plongée, l'apnée, tu vois, la chasse sous-marine. J'adore le ski aussi. Mais je pense qu'un bon souvenir serait surtout en planche à voile, je pense, mon premier planning, tu vois.
Ouais.
Ça commence vraiment à partir et là j'étais vraiment... passionné par ça et puis c'était vraiment une source de liberté de te dire bon bah voilà je pars avec ma planche et là tu pars au large et en fait bah si tu veux jiber pour revenir tu le fais et sinon bah non tu le fais pas quoi et tu peux ouais. continuer et limite aller en Angleterre quoi presque quoi.
Ouais ouais clairement ouais.
Et ça j'ai vraiment adoré et c'est pour ça que je rêvais que d'une chose après c'était de partir sur quelque chose de plus conséquent qui est un voilier habitable et de partir vraiment quoi mais si tu veux mais ça m'a mais toute ma jeunesse, en fait, ça m'a fait vibrer. Et mon père, en fait, avait traversé l'Atlantique plusieurs ouais. fois. Il m'a bercé par ses histoires. Il a traversé entre autres l'Atlantique avec un grand marin qui s'appelle Eugène Riguidel, d'ailleurs, qui va être le parrain okay. de mon futur voilier. Et donc je rêvais que de ça, en fait, de partir, quoi.
Ok. Donc dès très jeune, t'étais piqué par le virus du voyage et de la traversée, quoi.
Ouais. Non, mais vraiment, c'était une étape indispensable de ma vie avant de savoir qu'est-ce que je veux faire, quoi. Tu vois, ouais. C'était toujours quand t'es petit, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Non. Bah, tu vois, avant de répondre à ces questions, je vais aller voir un peu comment ça se passe, tu vois.
Ouais.
Surtout que j'étais pas scolaire.
J'ai envie de voyager ou?
Bah oui, non, mais c'est ça. Ouais, non, mais je voulais voyager. En fait, pour moi, c'était mes études, quoi. Parce que j'étais pas scolaire, tu vois. Tu me demandais comment j'étais à l'école, mais j'étais.
Sans blague.
Bah non, mais tu vois, j'ai jamais vraiment ouvert un cahier chez moi. C'était pas possible. J'ai fait 13 écoles et, tu sais, mes parents, ils
13 écoles.
Ouais, 13 écoles. Et encore, j'ai arrêté en première, sinon, en début de première, sinon, t'aurais pu en rajouter deux. À la fin, mes parents, ils en pouvaient tellement plus que les profs, ils venaient chez moi directement. Enfin, à ce moment-là, j'étais chez mon père, tu vois. Et mon père, il bossait quand même. Et mes profs, tu vois, je les emmenais en mer, quoi. Je leur disais, non, mais ça, on s'en fout, mais venez, je vais vous montrer un truc et tout. Et tu vois, et hop, on partait, relever les casiers, choper un petit homard, et tu vois. C'était beaucoup plus intéressant, merde, quoi.
Mais non, mais... génial. Mais j'imagine que t'avais dû avoir des profs hyper sympas et hyper réceptifs, et d'autres, moins, c'est comme la police, maritime, quoi.
Complètement. Ouais, je pense que tu vois bien le truc. Ça veut dire que t'avais des profs vraiment avec qui je m'entendais hyper bien, on rigolait, tu vois, ils voyaient très bien que c'était pas fait pour moi, mais que j'étais pas un mauvais gars, et j'étais pas plus con qu'un autre, d'ailleurs. Et d'autres qui disaient, mais putain, mais en fait, c'est juste un branleur.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est vrai que, bon, avec le recul, je me dis que c'était pas forcément bien, mais c'est vrai que j'aimais bien faire un peu le clown en classe. Ouais. Et donc, c'est peut-être déconcentrer parfois les élèves. Ouais. Et donc, voilà. Mais bon, écoute, voilà.
un peu le pitre, déjà.
Ouais, je pense, un petit peu, ouais.
Besoin. Ouais, ok. mais écoute, ça m'étonne pas du tout. Et tu vois, je suis hyper content à travers ce podcast parce que il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau dont c'est un peu le parcours. Moi aussi, pour moi, 8 heures en cours, c'était un calvaire, mais vraiment. Et je supportais pas. Tu vois, je travaillais le moins possible pour avoir 10. Et
ouais, c'est ça.
C'est tout. et tu vois, et en fait, je suis hyper content de montrer une autre forme d'intelligence et une autre forme de réussite parce qu'en France, on est un pays quand même très attaché aux mathématiques, aux sciences fondamentales, tu vois, et très au QI. Il y a eu plein d'études qui ont montré qu'il y a 10 formes d'intelligence et que l'intelligence sportive, naturaliste, géographique, ce sont d'autres formes d'intelligence qui n'ont rien à voir avec l'intelligence mathématique.
Ouais.
Toi, t'en es une preuve. Et l'école doit s'ouvrir un petit peu à ça, tu vois, aussi à ces personnalités qui sont pas réceptives aux équations, quoi.
Ouais. Non, mais complètement, je te retrouve complètement là-dessus, ouais, 100%.
Ok. D'accord avec toi. Bon, écoute, trop cool. Et pour les auditeurs, pour qu'ils te comprennent un peu, d'où vient le déclic de partir en mer, de faire la traversée? Parce que si t'en as envie depuis tout jeune, j'ai envie de te dire, moi je te comprends pas, t'aurais pu demander à ton papa, viens, on y va.
C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Genre, viens, on y va, viens, on va faire un petit tour du monde, c'est ça.
Tu peux lui dire, ouais, dans 3-4 ans, on le fait, on le prévoit dès maintenant, quoi. Après le bac, ou je sais pas quoi.
Mais le bac, non, c'est pas possible, ça. Tu vois, tout le monde te dit, il faut avoir ton bac, ouais, d'accord, et après, je sais pas. Enfin bon. Et donc, moi, si tu veux, donc, à 18 ans, j'arrête, je pars en Australie.
Ouais.
Et j'arrive là-bas, tu vois, j'ai rien, quoi. Rien, je voulais partir loin, je voulais apprendre l'anglais, en fait. Je me suis dit, s'il y a un truc qui va me servir, ça sera l'anglais. Tu vois, non, mais c'est vrai, avec l'anglais après. Bah, tu peux partir un peu partout, quoi.
Nouvelle intelligence linguistique.
Sauf que, j'en parle pas un mot, j'ai zéro contact sur place, j'ai pas de thunes, mais vraiment que dalle, quoi. Genre, j'ai 200 euros et je suis dans la rue, quoi, au début, quoi. Genre, sur des bancs à Sydney, quoi, tu vois. Oh,
putain,
Tu vois, j'avais Lonely Planet et je voyais que, logiquement, dans les terres, un peu plus à l'ouest de Sydney, il y a moyen de trouver un petit boulot dans du fruit picking, là. Donc, je pars dans un bus, machin. Puis j'enchaîne plein de petits boulots à droite à gauche. Premier salaire, je m'achète un vélo. Je fais tout le sud-ouest de l'Australie à vélo. Hyper heureux. Et je finis sur des gros bateaux de pêche. Et là, ça devient plus compliqué dans le sens où, c'était un boulot physique, un peu dangereux. Les mecs étaient complètement vraiment jetés à bord, quoi.
Okay.
Souvent, ils ont pas trop de vie à côté. Tu pars 3 semaines en mer, c'est 20 heures par jour. Tu gagnes logiquement pas mal de sous et quand ils rentrent, tu vois, ils pensent à se battre, ils pensent à aller voir les filles, tu vois, et puis à se droguer, les mecs, tu vois, ils se droguent, mais genre, tu vois, ils se piquent, je les ai vus se piquer, se faire tourner la seringue et tout, c'est un peu dégueu quand même, quoi, vraiment, quoi.
Okay, ouais. Ouais.
Et
c'est quoi, c'est le métier qui est tellement dur que quand ils rentrent, ils ont envie de...
Ouais, c'est ça, mais c'est pas que là-bas, hein. Ça touche beaucoup de pays, ça, dans le monde de la pêche. C'est des métiers qui sont pas évidents et tu pars longtemps et à côté, c'est compliqué d'avoir une vraie vie de famille.
Ouais.
Et comme tu gagnes un peu d'argent, bah t'aimes bien le claquer aussi pendant tes escales, te faire kiffer un peu.
Ouais.
Et voilà. Et donc, moi j'étais pas du tout dans cette optique là. Moi le truc qui me faisait tenir c'était d'acheter mon bateau en fait, et j'étais parti pour ça quoi, si tu veux. Au début je voulais même acheter un bateau d'Australie.
OK.
Pour revenir en France. Sauf que j'ai cherché un bateau là-bas, j'ai pas vraiment trouvé ce qu'il me fallait. Et après réflexion, je me suis dit, mais putain, c'est quand même beaucoup plus logique de trouver un bateau en Bretagne, déjà, bah, parce qu'il y a vraiment du choix, partir de chez moi et de revenir de chez moi, quoi.
Ouais.
Et donc, tu vois, j'ai réussi à gagner pas mal de sous, quand même. Je suis rentré à 20 ans, j'ai acheté mon bateau.
Ouais.
Une fois que j'avais acheté, j'avais plus de thunes du tout. Et je l'ai préparé, et puis je me suis barré, quoi.
Ouais.
Ouais. Tu vois, en gros. Mais tu vois, je me suis barré, mais avec un bateau pourri, au final, sans expérience non plus.
Bien sûr, ouais.
Tu vois, enfin, bon, j'avais tout à apprendre. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, waouh, wow, putain, franchement, je me suis fait confiance quand même, quoi.
Ouais, parce que 20 ans, ouais, t'es pas encore, j'ai pas envie de dire t'es pas fini, mais.
Bah ouais, non, mais.
Tu te connais pas forcément, enfin, tu te connais pas nécessairement, tu vois. Et non. Moi, c'était une des questions que je voulais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu vas chercher en permanence le risque? Est-ce que c'est pour apprendre à te connaître? Parce que tu vois, même ce voyage en Australie, ça peut paraître anodin. Mais tu vois, combien de personnes auraient bossé 2-3 mois, tu vois,
ouais,
pour au moins avoir 1 ou 2 mois de sécurité là-bas, histoire de trouver un logement,
histoire
d'avoir un peu de sous en arrivant et d'être tranquille et de trouver un pote, machin.
Ouais.
Toi, t'es parti direct, tu t'es mis dans la sauce, quoi, tu vois.
Bah ouais, mais je savais pourquoi j'y allais aussi, en fait, tu vois. J'avais un objectif, en fait. Ouais. Et l'idée, c'est de pas trop reculer devant ça, quoi. Et donc oui, bah c'est sûr qu'à 20 ans tu te poses moins de questions, en fait, t'as moins d'attaches, et forcément bah tu vois, j'avais pas de copine à ce moment-là, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de crédit, j'avais personne vraiment qui m'attendait, quoi, en fait.
Ouais.
J'avais tout ce qu'il fallait pour partir, justement.
Ouais.
Et c'était le bon timing. Et il y avait mille raisons aussi de repousser, de se dire bah non, tu vois, c'est pas vraiment le bon moment, dans le sens où OK, j'ai acheté un bateau, mais en fait bah le bateau, je pensais qu'il était au top, mais en fait il est pas au top du tout, il est complètement pourri, c'est un bateau d'acier.
Ouais.
Et il était rouillé, j'ai fait des trous quelques semaines avant de partir, tu vois, et j'ai rebouché, je me vois encore avec du Sikaflex et avec une vis,
ouais,
et tout.
T'avais une mauvaise affaire, tu pensais avoir fait.
Ouais, carrément. Mais j'en veux pas du tout aux anciens propriétaires, parce qu'ils étaient trop cool, et parce que ça date d'il y a plus longtemps, et en fait c'était caché, tu pouvais pas le voir, quoi.
Ouais.
Et il aurait fallu passer des mois à découper des tôles, les ressouder et faire plein d'autres petits changements, et sauf que ce temps-là, bah moi je l'avais pas, et pour aucune raison j'aurais voulu décaler d'un jour ou deux, quoi.
OK. Ouais.
Bah parce qu'en fait t'es jamais prêt, en fait, c'est ça le problème, c'est que t'es, ouais, jamais prêt, t'as toujours une bonne excuse pour ne pas partir, quoi.
Ouais, ça c'est clair.
Bah oui. Et au final, le plus dur, c'est d'y aller. Et puis après, bon, les choses.
Une fois que t'es lancé, c'est facile.
Ça s'enchaîne, quoi. Bah ouais, bah au moins t'es parti, quoi.
Ouais.
Quoi, non, mais après, t'as pas le choix, t'essaies de te démerder, quoi.
Ouais.
Tu vois, ça se passe pas toujours comme tu le veux, mais bon. J'essaie de trouver des solutions.
Et ce qui est marrant aussi, tu vois, dans ton aventure, c'est que on sent un peu, il y a un peu un côté pression sociale qui s'inverse, c'est que quand tu pars et que t'es trop jeune,
ouais,
tout le monde te dit mais t'es complètement fêlé,
ouais,
que t'as pas assez d'expérience, blablabli, blablabla. D'ailleurs, je serais content d'avoir toi, comment est-ce que tu te blindes, comment est-ce que tu te protèges par rapport à tout ça, ces remarques. Et ouais, après, une fois que t'es parti, t'as un peu une pression sociale inversée, de genre si je rentre, je passe pour une poule mouillée, sans les jeux de mots.
C'est vrai, et c'est pour ça qu'au départ, si tu veux, même si j'avais ce projet, tu vois, un peu de tour du monde, je voulais partir partout avec mon bateau. Bah, ouais. J'ai pas pu le faire, évidemment, mais j'ai quand même bien bourlingué, si tu veux. Mais j'y allais par étapes. Je disais à mes proches, je pars traverser l'Atlantique.
Ouais.
Et après, on verra. Mais en fait, je rêvais de partir dans les glaces. C'est pour ça que j'ai pris un bateau en métal, quoi.
Ouais, ouais.
Mais si tu veux, en fait, j'écoute pas les autres. En fait, je m'en fous, quoi. Grave. Non, mais c'est vrai. Non, mais enfin, tu vois, même pour mon projet Vendée Globe, enfin, tout le monde m'a dit, mais attends, mais mec, mais enfin, t'es taré, quoi. Enfin, là, tu fais pas du tout les choses dans l'ordre, en fait. Tu vois, j'ai acheté un bateau, genre, je me suis endetté potentiellement à vie, sans sponsor, sans rien. Tu vois, on m'a dit, bah non, d'abord, tu trouves un sponsor, tu trouves une équipe, tu trouves un bateau.
Non.
Bah non, parce que moi, je me suis dit, bah ouais, ok, je peux faire ça, mais j'ai pas le temps de faire comme ça, en fait. Donc, d'abord, j'achète le bateau. Une fois que j'ai le bateau, j'ai pas le choix de trouver un sponsor. Tu vois? Et là, bah, en fait, bah, t'y vas, quoi.
Et ça a payé.
Et ça a payé. Bah oui, mais de toute façon, t'avais pas le choix, donc t'avais pas le choix. Il faut, quoi.
Ouais.
Tu vois? Ouais.
Ça a toujours été comme ça? T'as toujours réussi à te moquer du regard des autres et à te détacher de ça?
Bah, ouais, carrément, ouais. Carrément. Okay. Et en fait, plus on me dit c'est pas possible, plus j'ai envie de prouver que si, en fait.
Ouais.
Mais après, je réfléchis, hein. Tu vois, ok, je suis un peu con, mais pas complètement, je pense. Donc, je sais dans quelle direction je vais quand même, tu vois.
Okay.
Même si, enfin, tu vois, tu me disais tout à l'heure, t'adores prendre des risques. Bah, en fait, est-ce que j'adore prendre des risques? Pff, je sais pas si c'est, je sais, enfin, je me suis, enfin, prendre des risques, oui, non, mais je fais pas des choses pour me dire, ah, oh, ça va être trop bien, je vais prendre des risques. En fait, je fais des choses parce que ça me fait kiffer, parce que je sais que je vais vivre quelque chose d'incroyable, en fait. Ouais. Mais je sais que potentiellement c'est risqué, mais c'est vrai que tu te voiles un peu la face au départ, en fait.
Ouais.
Enfin, tu vois, tu penses pas à tout ce qui va se passer parce que, bah, si tu penses à tout, bah, mais c'est comme tout, tu vois, c'est comme quand tu lances ta boîte.
Ouais.
Tu vois, je crois que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé aussi. Bah, si t'as les réponses à tout, tu dis, bah non, mais j'y vais pas.
Ouais.
En fait.
Mais t'es jamais prêt, il faut une part d'insouciance pour te lancer, en fait.
Bah, c'est ça.
C'est cette fameuse phrase, il ne savait pas que c'était impossible, alors
carrément.
Il l'a fait, quoi.
Bah, ouais, c'est ça. Complètement.
Et, je vais te poser une question, tu vas répondre pendant que je vais remettre la caméra, parce que j'ai l'impression que la petite vis s'est détachée.
Je peux le faire, sûr.
Non, t'inquiète, je vais faire le tour, on va garder le tout pour les auditeurs. Mais la question que je voulais vraiment te poser, c'est moi de l'image que tu dégages.
Ouais.
C'est quelqu'un qui dégage à la fois beaucoup de sérénité.
Ouais.
Et beaucoup de confiance en soi.
Ouais.
Alors j'aime pas trop le mot confiance en soi, et je dirais plutôt conscience de soi. Je pense que c'est plutôt se connaître.
Ouais.
Et avoir envie de se découvrir, c'est ça qui crée de la confiance.
Ouais.
Mais et tu vois, comme je suis papa.
Ah ouais, trop bien.
Bah tu vois, je suis curieux de savoir toi, avec ton regard, avec le recul que t'as sur ton éducation. Alors je sais que t'as perdu ton papa pendant que t'as traversé.
Pendant mon hivernage au Groenland, ouais.
Ouais, exactement.
Ouais.
Et tu vois, si on peut penser un petit peu à lui, qu'est-ce qui t'a apporté et qu'est-ce qui fait que, je sais pas, dans ton éducation, ta jeunesse, t'as construit cette confiance que t'as eue très très jeune.
Ouais.
Chez d'autres, ça met un peu plus de temps, tu vois.
Ouais.
Mais je serais très curieux de savoir ça, tu vois, si tu devais te donner un conseil à un daron.
Ouais, ben bah, en fait, la chance que j'ai eue, c'est l'endroit où j'ai grandi, en fait. C'est, je dis souvent que cet endroit, il m'a fabriqué. Quand t'as la chance de grandir sur une île isolée, tu vois, t'es la seule maison, bah en fait, tu n'as pas le choix de te démerder par toi-même. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de liberté très jeune. Et c'est ce qui m'a, je pense, ce qui m'a permis de me faire, d'une certaine façon, de me faire un petit peu confiance, que j'avais pas trop le choix. Et j'ai toujours été aussi avec des gens assez, enfin, plus âgés que moi,
ouais.
Tu vois. Et en fait, j'ai eu, enfin voilà, j'ai mon père. D'ailleurs, on le traitait de taré parce que je me souviens de moments où je partais en mer. Tu vois, relever mes casiers, par exemple, où il y avait vraiment du mauvais temps, il y avait aucun bateau en extérieur. Et tu vois, ma famille disait, mais non, mais t'es fou de le laisser comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Et puis au pire, tu vois, ouais. Ok, peut-être que mon bateau, il allait se renverser, mais je serais revenu à la nage, quoi.
Ouais.
Et en fait, c'est vrai que j'avais tendance à jamais m'arrêter vraiment en face d'un obstacle, quoi. J'aime pas trop ça, quoi. Mais, et d'ailleurs, c'est là où je suis pas très intelligent, dans le sens où je pense que c'est un...
Ne dis jamais ça.
Non, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des moments où tu dois dire ok de renoncer d'une certaine façon, tu vois, même pendant ma dernière traversée.
Ouais.
Où je pense que bah il y a des moments où j'aurais dû me dire ouais ok là ça va trop loin quoi. Ça va trop loin parce que je mets ma vie en jeu et c'est pas le but quoi. Mais en fait enfin je voulais arriver au bout quoi. Enfin vraiment quoi, tu vois.
Ouais. Mais donc de ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que déjà t'as peut-être des parents qui t'ont transmis aucune peur.
Ouais. Ouais.
On en a tous.
Mais
par rapport à la nature et l'aventure, en tout cas.
En fait, oui. Si tu veux, j'étais, mes parents, ils ont divorcé. J'avais à peine 7 ans.
Ouais.
À 7 ans, j'étais en CE1, j'étais déjà en pension, tu vois, déjà. En CE1, t'es en pension. Forcément, t'apprends un peu l'autonomie, tu vois.
Ça forge.
Bah ouais, ça forge. Et c'est vrai que c'est jeune, tu vois. Quand je vois mes neveux là, qui ont 7 ans, je me dis, mais attends, à cet âge-là, c'est chaud comme, tu vois, je ne vois pas envoyer mes gamins.
Oui, ils sont pas fut-fut, hein.
Non, mais sans parler de ça. Non, mais déjà, bon, la pension, c'est une chose, mais tu vois, quand je les regarde et je me dis, putain, mais à cet âge-là, je partais en mer, mais je me vois pas les laisser partir eux, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, la plupart des gamins, ils sont de moins en moins débrouillards, hein, quand même. Mais c'est un peu con parce que tout le monde a peur de tout, ils sont surprotégés, ils sont surconnectés. Ça, c'est une connerie, quoi.
Ça, on est d'accord.
On est d'accord.
Non, mais plus tu passes de temps dans la nature, plus tu te développes, quoi.
Ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est la meilleure école, ouais.
Ah ouais. Mais ça, je suis d'accord. J'avais rencontré les frères là devant, je sais pas si ça te dit quelque chose. Ils font de l'escalade de glace, eux.
Ok, ouais.
Et ils ont fait l'école à la maison. Et ils vivaient dans une yourte avec leur mère toute leur vie.
Excellent.
Et je me souviens des deux frères, quoi. Ils avaient 20 et 24 ans quand je les ai rencontrés. J'ai jamais vu des mecs aussi matures. ouais. que ces deux gars-là, tu vois, alors que d'une vingtaine d'années, c'était assez impressionnant, quoi. Donc ouais. Je suis pas étonnant.
Ouais,
pas
étonnant. Non, ouais, mais ça m'étonne pas.
Ouais.
C'est sûr.
et tu sais, ouais, pourquoi on te la pose, j'imagine, tout le temps cette question, mais
ouais.
Et d'ailleurs, ouais, je suis tombé sur des interviews de toi et je coupais au moment de la réponse. J'avais envie de l'écouter, mais ce que tu cherches à te prouver. Tu
mais,
sais un peu.
Mais non, en fait, je cherche. Bah, en fait, est-ce que je cherche quelque chose à me prouver? Je crois pas. Peut-être au départ en Australie. Tu vois, je voulais peut-être montrer là, en effet, à mes proches, tu vois, à mes parents. Je me souviens même de mon frère qui m'appelait quand j'avais arrêté, du coup, les études. Qui m'a dit non, mais tu fais la plus grosse connerie de ta vie. Et ouais. Leur montrer que oui, il y a pas que les études. Tu ouais. vois, qu'il y a, comme tu le disais tout à l'heure, il y a mille façons de s'en sortir. Et là, je pense que c'était quelque chose que je voulais me prouver à moi-même et à eux aussi. Mais après, en fait, non. Je veux juste me faire kiffer, en fait. Ça s'arrête. Non, mais c'est vrai. En fait, enfin, pour moi, ce qui est important, c'est s'épanouir.
Ouais.
Et moi, le matin, quand je me lève, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent, quoi. Sinon, ça m'intéresse pas. Okay, on fait pas toujours ce qu'on veut. Mais dans sa globalité, bah, j'essaye, quoi. Tu vois?
Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr.
C'est, ouais. Sinon, c'est trop con, quoi, en fait.
Ouais.
Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Attention, hein. C'est pas évident. Après, enfin, moi, enfin, tu vois. Ça tombe pas du ciel, j'ai dû me battre pour tout ça, quoi, et encore aujourd'hui, hein.
Ouais.
Mais j'essaie de faire en sorte de vivre à 100%, et d'essayer de partager tout ça et surtout en fait si tu veux, je sais pas ce qui se passera, mais tu vois, j'ai l'impression que moi je vais pas vivre forcément hyper longtemps. Et non, mais c'est vrai, quoi, tu vois. Mais il y a pas de problème, en fait, j'ai pas peur de la mort, enfin ouais. J'ai pas envie de crever, mais tu vois, là, pendant ma dernière traversée, je me suis vu partir, je me suis dit, bon, fais chier, quoi. Tu sais, j'étais pas en panic en train de pleurer et tout, non, bah ouais, fais chier, mais c'est le moment, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense toujours au jour où je vais me retrouver voilà, sur mon petit lit de mort, et là j'aurai un petit flashback de tout ce que j'aurais fait, et là tu vois je me dirais, ok, c'est bien, t'as bien profité, tu vois, t'as utilisé tous tes crédits d'une bonne façon, quoi.
Est-ce que tu as un pressentiment,
ouais,
de la façon de laquelle tu vas mourir? Je vais remettre la caméra parce que je crois que ça a recassé la gueule. elle va m'embêter jusqu'au bout. Je te pose la question parce que j'ai interviewé Mathias Giraud, je sais pas si tu le connais, mais
ouais, ça me parle, ouais.
C'est Super Frenchy qui se fait appeler, en fait il fait du ski base, tu vois, donc ce qui s'appelle, mais... le ski base.
Ah non, c'est pas les Flying Frenchy. C'est super.
Il y a les Soul Flyers.
Ouais, ok, ouais.
Tu vois, donc ça, c'est les deux qui font du base jump et qui, ouais, qui font les trucs les plus tarés. Et
carrément.
L'un des deux nous a quittés l'année dernière.
Mais puisqu'il y en a déjà un qui était parti il y a pas longtemps, hein.
Il y a 2 ans, mais on parle des deux. C'est Fred et...
Ton Fred, non, c'est pas ça?
Je sais plus.
Je sais plus.
Ouais, il y en a deux. Après, ouais, ils sont reconstitués et tout. Je crois que c'est Fred est toujours en activité. Mais tu vois, et je parlais avec Mathias. Donc Mathias, il fait du ski sur la montagne. Il part des plus hautes montagnes, genre de Mont Blanc.
Ouais.
Et puis il skie. Et puis dès qu'il y a une falaise, il jette, il ouvre son parachute.
C'est bon, ça.
Tu vois, il a plus de 1500 sauts à son actif.
Ok, pas mal.
C'est un bon gros fêlé aussi,
ouais,
mais un mec méga intelligent pour le coup. Il me dit, moi je sais exactement comment je veux mourir, tu vois.
Ok, ouais.
Et toi, quand tu me dis, je sais que je vais mourir jeune, j'ai déjà vu la mort, j'en ai pas peur et tout.
Ouais.
Je me dis, tiens, est-ce que t'as une philosophie par rapport à ça?
Bah, une philosophie, Bob. Non, mais pas forcément. Mais moi, je pense que je partirai dans la mer, quoi. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère, quoi. Mais après, comme je te dis, je suis pas pressé. Et moi aussi, tu vois, je suis papa depuis pas longtemps. Ma petite fille, elle a 10 mois. Et j'ai vraiment envie de la voir grandir. J'ai envie de partager plein de choses avec elle et l'emmener dans un endroit que j'ai eu la chance de voir, quoi. Et c'est bon, ça marche ou quoi?
Je galère, mais je crois qu'elle a décidé de m'embêter. Ouais, je comprends pas. Écoute, au pire,
ouais,
ça sera concentré sur toi, c'est très bien.
C'est très bien. C'est ce qu'il nous faut, vas-y.
Ouais, toi, tu sais que ça sera en mer.
Bah, je sais, enfin, j'aimerais bien, ouais, je serais content, ouais. Je serais content, tu vois. Si je peux servir un peu de nourriture pour les poissons, pour les homards en Bretagne, c'est cool. Ce que j'ai attrapé, en plus.
Puis, il y aura une épave à aller chercher.
Ah, c'est ça, ouais.
Mais, ok. Et ouais, ça te fait pas. C'est un des trucs que je voulais te demander aussi, toi qui as. Ça fait beaucoup de digressions dans le podcast et tout, mais c'est pas grave, il y a pas trop d'ordre chronologique, on était là pour ça aussi.
Ouais.
Durant justement t'as traversé à la rame.
Ouais.
Il y a un passage qui est hyper fort, c'est que justement tu te retournes.
Ouais.
Tu sens que tu t'y passes, tu le dis clairement.
Ouais.
À quoi tu penses à ce moment-là, tu vois?
Bah là,
tu le racontes un peu dans le bouquin, mais
bah là,
si on le peut partager.
Bah là, je pense à ma copine qui est enceinte, tu vois.
Ouais.
Et là, je me dis putain, mais quel enculé je suis, quoi. Mais vraiment, quoi. Bah ouais. Et là, je me dis mais je suis plus gros des égoïstes, quoi. C'était pas prévu que ça se passe comme ça, quoi. Vraiment, quoi. Et ouais. En fait, et c'est ça qui me fait le plus de peine, en fait. C'est pas du tout moi, c'est les autres, quoi. Mais vraiment.
Ouais.
Et surtout Newt, tu vois, qui est ma copine. Et là c'est dur pour moi, quoi. C'est dur, et tu vois, c'est dur. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé, tu vois, à l'envers dans mon petit bateau, bon, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, en gros, pour revenir sur cette aventure rapidement, si tu veux,
ouais,
c'est que donc le bateau, il est fait pour être à l'envers.
Ouais.
Ok. Après, il y a un système qui t'aide à te redresser quand t'es à l'intérieur, un système d'airbag que tu gonfles avec une pompe à l'intérieur et ton bateau prend de la gîte, et puis après avec le poids de ton corps tu viens jouer, il se remet.
Exactement. Ouais.
Et si t'es à l'extérieur avec un boot, logiquement boum, tu le redresses.
Ouais.
Et moi à ce moment-là, c'était prévu que j'allais avoir une tempête tropicale qui allait me passer dessus. Donc le matin, j'arrive à ramer encore, et puis là le vent commence à monter, la houle aussi. Là, je me dis OK, bon allez, ça commence à être limite. Hop, je me mets dans mon bateau à l'abri, toujours le petit hublot qui est ouvert pour avoir un petit peu d'air quand même qui circule, parce que bah sinon c'est dans une une boîte de conserve, quoi. Enfin tu vois, genre il y a pas un millimètre d'air qui rentre, quoi.
Ouais.
Et je crois qu'au bout de 15-20 minutes d'ailleurs, c'est fini, quoi. Tu vois, si tu t'endors avec tout fermé. Et moi, j'avais ouvert un autre petit hublot qui était au-dessus de moi pour faire un courant d'air, j'aurais pas dû le faire, c'est sûr. Mais je pensais pas me retourner, tu vois, aussi facilement. J'avais la main dessus en plus, sauf que boum, je me retrouve à l'envers. Là, impossible de le refermer.
C'est quoi, c'est une énorme vague, ouais, qui
bah ouais, ouais, c'est une déferlante, qui retourne mon bateau, boum, tu sais, voilà, tu fais un tonneau, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et là, d'un coup, tu vois l'eau qui commence à monter, oulala, je suis à l'envers. Ok, c'est pas grave. Tu tires dessus. Putain, il veut pas se fermer, il veut pas, mais attends.
Donc le bateau se remplit,
le bateau commence à se remplir d'eau.
Ouais.
Et en fait, tout est aspiré, j'ai des bouts qui passent à travers. T'as beau les repousser. Et en fait, ils reviennent. Et puis, bah, là, le bateau, il commence à s'enfoncer dans l'eau, au fur et à mesure que l'eau rentre. Le hublot qui me sert à respirer, bah, là, l'eau commence à passer par là aussi. Là, je me dis, OK, putain, la situation, elle est pas terrible quand même. Là, je ferme, non, mais vraiment, là, je ferme ce hublot. Et sauf que très rapidement, j'ai plus d'air, en fait. C'est-à-dire que t'ouvres la bouche, t'as la moitié de ton corps qui est dans l'eau, et l'autre moitié qui est hors de l'eau, mais dans le bateau. Et sauf que t'as plus rien qui rentre, tu vois. Là, tu fais, ouh, putain. Et là, je me suis dit, OK. Là le niveau il est au plus haut là, je pense, des emmerdes. Donc là il faut sortir du bateau. Et c'est ce genre de truc que j'aurais pu penser. Donc j'ouvre les quatre poignées et je pousse la porte
ouais,
pour sortir. Sauf que bah l'eau elle finit d'engouffrer le bateau. Je me trouve projeté sous l'eau sans air machin. Bon après tout ça se passe rapidement, mais quand même, tu vois.
Ouais.
T'as pas le temps de trop réfléchir, quoi. Et là j'arrive à me dégager de tout ça. Hop, je sors ma tête.
T'es accroché avec un mousqueton ou
non,
un truc
à l'intérieur? Non, t'es pas accroché. Non, non.
Ah ouais. Allez, mais tu veux pas t'accrocher justement au moment où pour sortir, tu t'accroches à l'extérieur du coup?
Non, j'ai rien, je me tiens à la main, tu vois, je me tiens à la main de mon bateau, j'avais pas de harnais, rien. Et là, je me tiens à un bout, tu vois, je monte sur mon bateau, là, tout de suite, je pense à le redresser, et de toute façon, je sais que la cabine, elle est remplie d'eau. T'as un compartiment étanche sur l'avant, mais qui est beaucoup plus petit que l'arrière.
Elle fait quel volume, la cabine?
À 1,5 mètre carré. Tu vois, la partie habitacle.
Ouais. Mais du coup, habitable, tu dois avoir, t'as quasiment une tonne d'eau dedans, quoi.
Ah ouais, j'ai une bonne tonne d'eau. Ouais, ouais, je pense. Ouais, ouais, non, c'est clair. Donc, autant dire que le bateau, il bougeait pas, quoi.
Faut être optimiste pour le...
Je savais. Mais forcément, la première chose que tu fais, c'est que t'essayes de le redresser. Et là, je prends le bout et tout. Le bateau, il bouge pas, quoi. Je fais, oh, putain. Et là, tu vois.
Il y a toujours des vagues, là. Il y a toujours des
vagues. Ah bah ouais, ouais. Mais carrément, le vent, il est, ouais, bah, pleine tempête. Ouais, j'ai 35-40 nœuds, quand même. Donc, il y a du vent, il y a un peu de houle. Non, mais, c'est méchant, mais ça va encore, tu vois. Genre, il y a pas des creux énormes et tout ça. Mais je savais que ça allait s'amplifier, en fait. Et donc, la nuit, elle est arrivée, qu'il y a des personnes qui allaient venir autour de moi, quoi. C'est clair, quoi.
Et il coule pas, même rempli, le bateau?
Non, le bateau, non, il est insubmersible. Bah, il penche un peu, quand même, sur l'arrière. Mais c'est un bateau en bois. Donc, le bois, tu vois, ça flotte, quoi.
Ouais, ok. Ouais, mais même avec une tonne d'eau dedans, quoi.
Ah ouais, carrément. Ouais, mais ce qu'il y a la partie avant, elle est encore étanche. Elle est bien hermétique, elle. Et, ouais. Tu vois, donc pour l'instant, il coule pas. Il aurait pas coulé, hein, tu vois. Il serait resté à fleur d'eau, quoi.
Ok.
Et là, je vois mes affaires partir, tu vois, genre mes coussins, genre ma salopette, genre une dentifrice, genre plein de conneries comme ça. Et là, je me dis, oh putain, quelle horreur, quoi, tu vois. Et là, j'ai une envie, c'est de sauter à l'eau pour les récupérer, mais tu vois, je les mets où, quoi? Là, je vois une de mes vestes toute neuve, une veste Nicotène, là, partir, là, je me dis, oh, non, pas cette veste, elle est trop bien. Je récupère la manche, je fais un nœud et tout, tu vois. C'est le seul truc que j'arrive à sauver qui sort de mon bateau. Et là, je reste des heures et des heures, je suis en maillot de bain. Tu vois, j'ai pas de combinaison, j'ai rien. Je suis resté, ouais, je sais pas, 5 heures, 6 heures, 7 heures. J'avais pas la notion du temps à ce moment-là. C'est quand même long. Il fait pas, ouais, c'est pas la grande chaleur non plus. Après, ouais, heureusement, j'étais rentré dans le Gulf Stream, donc le courant est assez chaud. Mais bon, logiquement, tu vois, dans une température comme ça, je pense qu'au bout de 2 heures, déjà, tu pars en hypothermie.
Et qu'est-ce qui fait que tu tiens, toi?
Bah, après, je suis pas trop frileux, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, en fait, j'ai même pas eu le temps de penser à ça. Vraiment, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est après coup, j'étais congelé, quoi.
Pourtant, tu sais que le froid, c'est un des pires ennemis des marins et que...
Ouais, complètement. Mais là, je pense pas au froid, en fait. Je pense juste à un truc, c'est redresser mon bateau. Sauf que j'y arrive pas, quoi. Non, mais vraiment, je me dis, putain, je vais pas mourir comme ça, fait chier, quoi. Et tu vois, et je me voyais, là, au bout d'un moment, tu vois, je m'imaginais, genre, en étoile de mer, tu vois, en train de regarder le ciel et en train de m'écarter de mon bateau, je te promets, quoi. Et puis, à un moment, il y a un truc qui sort de mon bateau et ce truc, c'est une ancre flottante, en fait. Et l'ancre flottante, c'est ce qui permet, si tu veux, de réduire la vitesse du bateau et de le garder dans un bon axe. Surtout ouais, quand t'as du mauvais temps ou du vent contraire. Tu vois, ça permet de freiner ta vitesse. Et là, je vois une ancre flottante sortir. Là, je me dis, mais oui, mais putain, l'ancre flottante. Et là, je plonge, je vais la choper. Je chope un long bout de mon bateau qui était déjà amarré. Et là, je laisse filer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Je sais pas, 40-50 mètres de bout, et j'amarre l'autre extrémité sur le bateau, en plein milieu. Et le bateau, en fait, il pivote face à la houle avec une grosse déferlante, le poids de mon corps, et la tension de l'ancre flottante, boum, le bateau il revient. Et là je fais oh. Et là je jure, mais je suis comme un ouf, quoi. Je suis comme un ouf. Et là je pense qu'il y a un truc, c'est de me dire oh putain, je vais pouvoir continuer, quoi. Putain, mais vraiment, quoi. Et là je suis au seau d'eau en train de vider mon bateau comme ça et tout, tu vois. Et le bateau il commence à remonter. Et donc là hop, je peux me renfermer à l'intérieur. Et là je me dis ok, bon là
tout est trempé. Bah ouais, tout est foutu.
Bah en fait il y avait quand même des petits compartiments étanches pour l'électronique, pour plein de petites conneries. Tu vois, j'avais mon drone, j'avais mon ordi, machin. Et là, je pense à un truc, je me dis, ok, il faut que je les prévienne parce que logiquement, tu vois, on pouvait me suivre avec une position pour rassurer, tu vois, ma famille, enfin voilà, les gens qui me suivent, parce qu'ils savaient que j'avais une tempête tropicale qui allait me passer dessus. Ils ont plus de nouvelles depuis des heures. Donc voilà, tu vois. Et donc, je vois que mon Iridium Go, la connexion principale, bah, elle a pris l'eau, elle est foutue. Bon, je m'en doutais. Je me dis ok, bon, c'est pas grave, mais en fait le truc c'est qu'en fait en chopant mon Iridium Go, c'était logiquement dans un compartiment étanche. Quand j'ouvre ce compartiment étanche, il y a plein d'eau qui sort. Et là je me dis oh putain, ça pue. Et là je me dis ok, c'est pas grave, t'as un autre compartiment étanche au-dessus aussi qui est rempli d'eau. T'as un autre téléphone, un autre Iridium, un portable, et qui est logiquement étanche, tu vois, aux embruns, quoi. Il est pas censé rester en immersion pendant des heures, quoi.
Ouais.
Et là j'arrive à l'allumer, là je me fais ok, trop cool. Là au début
c'est de la bonne cam.
Bah ouais, non mais c'est, en plus c'était mon Iridium qui avait servi pour le Groenland et tout, enfin du coup avant, parce que pendant l'hivernage j'avais pas de connexion internet, mais avant et après pendant le Nord-Ouest. Et là je me dis ok, bah celui-là il va pas me lâcher comme ça, et là je l'allume, donc pas de problème, il démarre, et sauf que je vois un gros point d'exclamation sur le réseau. J'attends un petit peu, il y a rien qui se passe, j'ouvre à l'extérieur là, enfin la batterie, et là rempli d'eau dans le truc, enfin pas rempli d'eau, il y a de l'eau, quoi.
Ouais.
Et là je me dis ok, il a pris l'eau aussi, j'essaye de le sécher machin, et là plus rien, quoi. Et là je me fais oh, fais chier, quoi. Donc là je peux plus joindre la terre, quoi, c'est fini. Et je me dis ok, c'est con parce que je suis en vie, j'ai le bateau qui flotte, et quoi qu'il arrive je vais continuer. Sauf que bah sinon pas de nouvelles de moi pendant des jours, des semaines, des mois, parce que là je suis arrivé 90 jours après ce retournement. Bah forcément ils vont penser que je suis plus là, quoi, parce que ok c'est une route où il y a du passage, il y a des cargos, mais moi si je peux pas prendre contact avec les cargos, ils vont jamais t'aider.
Ouais,
mais ils vont jamais m'aider. Potentiellement ils peuvent, il y en a peut-être qui peuvent me voir, mais la plupart du temps en plus tu vois rien, t'étais tout petit. Ouais. Et les mecs, tu vois, même s'ils me voient, ils vont faire quoi, enfin s'ils s'approchent de toi ils t'explosent, tu vois, enfin ils ont chose à foutre en plus, quoi. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, ils vont penser que je suis mort alors que je suis pas mort. Ça qui fait chier, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est que, non, ils vont se faire chier.
J'aime bien comment tu le dis, tu vois. Ça me fait rire, quoi. Ils vont penser que je suis mort alors que je suis pas mort.
Non, mais c'est vrai, si vraiment j'étais plus là, bah, je suis plus là. Mais ce qui est dur, c'est d'enterrer quelqu'un et au final qui réapparaît, tu vois. Je me dis, putain, fais chier, si ma copine elle refait sa vie et tout.
c'est humain d'y penser, quoi, je pense.
Bah ouais, non, mais surtout, en fait, je me suis fait des scénarios dans ma tête en mode, j'arrivais à la rame, chez moi, à l'Arche Divinaic, et ma famille qui me voyait au loin, putain, mais attends, mais c'est pas vrai, c'est pas lui. On l'a enterré, là, il y a 2-3 mois, là. Et pourtant, il arrive, ce con, quoi. et donc, ça me faisait un peu chier, quand même. Et ça, ça a duré quand même pas mal d'heures. Et j'ai eu beaucoup de chance que j'ai réussi à sauver une VHF portable. Ouais. Donc, tout ce qui était fixe était foutu. Sauf l'AIS que j'ai réussi à sauver par intermittence, il arrivait à marcher en fait.
Ouais.
Donc ça c'était quand même pas mal, mais pas tout le temps. Bon, il marchait pas pendant des jours. Et la VHF en fait, elle m'a permis de garder un lien avec les cargos que je croisais. Donc la VHF, j'ai pu la charger grâce à un panneau solaire portatif qui était d'ailleurs sous l'eau aussi. Un truc que j'avais acheté à Decat, tu vois. Je m'étais dit, moi je prends ça au cas où. Heureusement, je l'ai pris avec des sorties USB, tu vois.
Et qui a tenu à l'eau, quoi, en plus.
Ouais. Et le panneau solaire?
Ouais, le panneau
solaire. Ouais, carrément. Ouais, parce que, et en fait, ce que j'ai fait, quand j'ai, tu vois, toute mon électronique, j'ai essayé de balancer de l'eau douce partout, dans tous les sens. Et, il y a des trucs qui s'allumaient encore, mais c'était limite qui clignotaient, et puis je savais, de toute façon, que ça allait faire, que diminuer. Les batteries, si tu veux, les batteries, à ce moment-là, elles gueulaient dans tous les sens, ça sentait le cramer, enfin, il y a eu des courts-circuits, tout ça. Et, enfin, je savais que j'allais tout perdre, tu vois, vraiment.
C'était le chaos total, quoi.
Ah ouais, non, mais vraiment. mais moi, si tu veux, ça me dérange. En fait, je trouvais ça marrant presque. Enfin, pas marrant de perdre le moyen avec la terre ferme. Ouais. En fait, je voulais juste pouvoir rassurer ma famille. Mais après, ça me plaisait d'être seul quand même, parce que c'est ce que j'aime au final, c'est ce que j'ai vécu, entre autres au Groenland. Et c'est vrai que c'est un truc, c'est plus qu'un kiff en fait, d'être coupé, de se retrouver tout seul et de prendre le temps de vivre, vraiment quoi. Ouais. Et d'avoir aucune contrainte en fait, mais vraiment. Ouais. Et tu te poses des bonnes questions, enfin tu vois, de vraiment de ce que t'as fait, de qu'est-ce qui est important pour toi, et d'observer un petit peu et de pas savoir non plus ce qui se passe, tu vois, parce qu'en plus on était encore en plein Covid et tout, c'était pas forcément très passionnant. Et au final, donc voilà, j'arrive à sauver cette VHF et je peux prendre contact avec un cargo 30 heures après mon retournement à peu près. Donc j'explique au cargo ce qui s'est passé. Le cargo me dit, écoutez, on se déroute, on arrive, on vient vous récupérer. Je dis non, mais attendez, je vous ai jamais demandé de venir me récupérer, c'est très gentil, mais non. Ouais. D'ailleurs, il me demandait ma position GPS, j'ai dit non, j'ai pas ma position. Et alors que je l'avais, parce que j'ai réussi à sauver mon portable, mon iPhone. Avec mon iPhone, en fait, j'avais une application qui s'appelle Navionix. En fait, je pouvais pas appeler, mais j'avais ma position GPS, en fait.
Ouais.
Et donc, quand je pouvais le charger, je pouvais savoir à peu près où j'étais, tu vois. Donc c'était pas mal.
Ouais, ok.
Et donc je leur demande de rassurer ma famille en leur expliquant que je peux plus contacter personne, mais que je vais bien, que je continue. Et dès que je peux, je reprends contact avec eux, quoi. Ah bon, ok, ça marche. Et ça a continué comme ça, tu vois.
Et t'imagines ce qu'il a dû penser, le capitaine du cargo, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce fêlé, quoi.
Non, mais en plus, des mecs qui comprenaient pas, tu vois, parce que en anglais, tu vois, un rameur, ça se dit rowing boat, tu vois.
Ouais.
Et c'est pas forcément évident, tu vois, avec la VHF et tout. D'avoir toujours les conversations hyper honnêtes.
Tellement peu à le faire que...
Ah ben non, mais il n'y a jamais personne qui a compris, pratiquement. Je pense que sur tout le cargo que j'ai croisé, il y en a peut-être deux qui ont compris que j'étais sur un rameur. Ils me disaient, t'es sur un voilier, t'as des problèmes avec tes voiles. Non, il n'y a pas de voilier. T'as un problème avec ton moteur. Mais il n'y a pas de moteur non plus.
I am roaring.
Ouais, non, mais c'est clair. Du coup, je disais, kayak. What? Oh, kayak? Tu vois, j'étais là comme, mec, il est malade, quoi. Enfin bon, c'était rigolo, quoi. Donc, voilà, par rapport à ce petit retournement, quoi.
Mais et du coup, t'as aucune aide, quoi. Tu t'es séché tout seul. Tu t'as sauvé ton matos tout seul.
T'es tout seul.
T'as attendu d'être à terre pour réapprovisionner. Enfin, pour.
Après, j'avais de la bouffe, quand même. Ma nourriture.
Ta bouffe, elle a été sauvée.
Ouais, elle était. Après, il y a des trucs qui ont pris l'humidité. Il y a beaucoup de choses qui ont moisi. J'avais plus de gaz pendant plus d'un mois.
Donc t'as dû le bouffer.
Le truc moisi. J'en ai bouffé. Ouais, carrément, j'ai bouffé de la nourriture moisie. Et en fait, si tu veux.
Alors, ça fait quoi?
Parfois, c'est dégueulasse, hein, souvent, quoi, quand c'est bien moisi. Mais j'avais tellement faim, surtout, parfois, c'était des trucs assez chouettes, tu vois, sucré, du chocolat, des choses comme ça.
Ouais.
Donc, j'essayais de nettoyer. Et parfois, c'était dans des, tu vois, j'avais mis tout sous vide, en fait, des fruits secs et tout ça. Et je faisais des tests, en fait. Je disais, vas-y, là, j'ouvre, des bananes, tu vois, et je goûte. Je goûte, et je regardais ce que ça me faisait avec mon ventre. J'ai, ouais, ça me fait rien. Il y a des moments, putain, j'ai trop mal au ventre. Oh putain, allez, ça, je le balance, quoi. C'est pas bon, quoi, tu vois.
Ouais.
Et c'était la seule façon pour moi de savoir, quoi.
Ouais, tu as testé les petites doses et ouais, voir si ça passe, quoi.
C'est ça, ouais. mais après, j'étais, comme la traversée a duré beaucoup plus longtemps que prévu, j'ai quand même perdu 14 kilos, tu ouais, vois, sur la traversée retour. Et à la fin, il fallait que je me rationne, tu vois. Je mangeais une fois, deux fois dans la journée.
Ah ouais?
Ouais, carrément. Donc ça, c'était dur parce que tu dépenses. En moyenne, je ramais au moins 12 heures par jour, j'essayais. Et surtout, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, non, ce qui était chiant, c'est l'eau. Parce que logiquement, j'avais un dessal électrique.
Ouais, ça, ouais, j'ai envie que tu me racontes,
ouais. Ouais, mais ça, du coup, putain, mais ça, j'en avais plein le cul à la fin, quoi.
Tu devais pomper une heure par jour, c'est ça?
Une heure, ouais, minimum. Une heure et demie, deux heures tous les jours, quoi. Pour avoir ma ration d'eau douce, en fait, quoi. En plus de ramer, quoi, tu vois.
Et puis, c'est pas vraiment de l'eau douce.
Bah c'est, ouais, elle est dégueulasse en plus, mais c'est de l'eau potable, quoi, tu vois. Non mais vraiment, mais ça, c'était sans ça c'était pas possible de continuer, hein.
Ouais, tu crevais, quoi.
Ah bah non, mais là tu crèves, quoi, tu crèves. Et puis en plus, il faut boire, sinon t'as des problèmes de tendinite, souvent t'as le soleil qui te tape sur la gueule. Moi je buvais pas assez en plus, mais vraiment j'ai eu des, enfin ouais, souvent je sentais que j'avais besoin de boire, mais en fait je me rationnais énormément.
Ouais.
et du coup j'étais pas bien, quoi.
Ah, ça, je viens de croire.
Non, mais c'est, j'étais dans le dur quand même souvent. Mais après, j'ai vu des trucs de ouf aussi, heureusement. Tu vois, ouais, je regrette rien. Mais qu'est-ce que j'en ai chié, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi.
Ouais, mais c'est ce que tu voulais.
Bah ouais, bah c'est complètement ce que je voulais. Parce que quand j'ai fini ma première traversée, tu vois, quand je suis arrivé à Saint-Barthélemy, là.
Tu as dû dire que c'était un peu facile.
Mais non, mais vraiment, je me suis dit, mais putain, mais que c'était cool, mais enfin, c'est que ça, quoi. Enfin, non, mais tu vois, fait chier, quoi. Parce que moi, je voulais avoir une vraie aventure, quoi. Je me suis dit, bon, bah, ok, mais bon, c'est comme si j'avais rien fait, presque, tu vois. J'exagère un peu, mais pas loin, quoi. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce retour, quoi. En plus, j'étais dans le bon... En fait, ce qui était compliqué, c'était plutôt l'annonce à ma copine, parce que, tu vois, j'avais pris le bouquin de Gérard Dabobine, je sais pas si ça te parle.
Ouais, bien sûr.
Qui est le premier français à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame il y a plus de 40 ans. Et quand je termine le livre de Gérard Dabobine, je suis en plein milieu de l'Atlantique de ma traversée aller. Et là, je me dis, oh putain, il faut absolument que je fasse le retour. Et en fait, et dans ma tête, je me dis, ok, je vais faire le retour. Mais je me dis avant, bah, faut quand même que j'en parle à ma copine, tu vois. Parce que là, déjà, j'étais parti pendant 74 jours. Si j'arrive
déjà, 74, c'est long, hein.
Ouais, c'est long.
Tu t'es pris pétale et tout, ou à la fin, ou.
Ouais, j'ai eu, au départ, j'ai eu deux petites dépressions qui m'ont fait un peu tourner en rond. Tu vois, donc là, j'avançais pas. Mais en fait, là, je voulais pas faire trop mon enfoiré. C'était, tu vois, de prévenir, ma copine pendant la traversée. Tu vois, je suis pas encore arrivé. Lui dire, écoute, juste pour te prévenir que, je vais repartir faire le retour.
Ouais.
C'est pas très sympa, tu vois. Et donc, je m'étais dit, t'arrives, tu passes un peu de temps avec elle,
ouais,
et tu l'annonces intelligemment, tu vois. Enfin, t'échanges, tu vois, pour être sûr qu'elle, tu vois, je sais avec qui je suis aussi, donc, je sais qu'elle aurait compris, tu vois. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai échangé avec Alice, qui est une de mes amies qui bosse avec moi depuis plusieurs années, qui s'occupe quand même pas mal du projet. Et j'avais dit à Alice, ok, j'ai vraiment envie de faire le retour. T'en parles à personne. Est-ce que tu peux te renseigner déjà, comment on peut s'y prendre, tu vois?
Ouais.
Et en fait, ma copine à ce moment-là, elle checkait aussi mes mails et tout pour voir s'il y avait rien d'important. Et puis à un moment, elle voit conteneur, États-Unis, machin. Et du coup, elle me dit, mais c'est quoi cette histoire de conteneur, États-Unis? Tu veux vendre ton bateau aux États-Unis? Et en fait, elle comprenait pas. Et je dis, non, mais t'inquiète, mais en fait, on pense à envoyer le bateau là-bas parce que potentiellement, j'aimerais bien faire le retour, mais bon, je pense qu'on sera pas dans la bonne saison, t'inquiète pas et tout. et là, elle me dit clairement, elle me dit, écoute, Guirec, je te connais. Tu me la fais pas à moi. Si tu t'inquiète pas. Elle me dit, sois franc, si tu sens que tu dois le faire, t'y vas.
Ouais.
Et je dis, ok, je sens que je vais le faire. Elle me dit, tu vas. Ok, ça marche, trop cool. Puis là, c'est parti, quoi. On a, tu vois, voilà, avant d'arriver, je savais que j'allais repartir, quoi.
Ouais.
Là, j'ai été servi.
Ouais, mais le retour est beaucoup plus compliqué, quoi. T'es à contre-courant. Ouais. C'est une vraie tannée, là.
Bah, contre-courant, ouais.
Tu fais combien de breaks entre les deux?
Je sais plus, 2 mois et demi, 3 mois, tu vois, je pense. Mais, tu vois, déjà, je mets 1 mois avant de remarcher normalement, quoi. Et je reprends 12 kilos aussi, je crois, à peu près. De la première aventure, j'avais perdu pas mal de poids aussi. Et ce qui est compliqué, c'est que t'es toujours dans la même position. T'es assis, allongé. T'es jamais debout, en fait.
Je voulais t'en parler, ouais. Des conséquences sur le corps de l'immobilisme et de vivre dans une cabine, ouais.
Bah ouais, c'est surtout au niveau des chevilles, si tu veux, parce que t'as des muscles que tu travailles que en position debout, avec le poids de ton corps, en fait. Ça vient tasser des muscles. Et là, je peux jamais le faire, parce qu'il n'y a pas de place dans le bateau. Et donc ça a été quand je suis arrivé, ouais, c'était un vrai handicap, quoi, tu vois. J'ai dû réapprendre.
T'étais en béquille?
Non, j'étais quand même pas en béquille, mais je souffrais, quoi. Ah ouais, non, je pouvais pas courir. J'ai mis avant de remarcher normalement, 1 mois, et avant de courir, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois, quoi, tu vois.
Tu le savais, ça, avant de partir?
Ah non, je savais pas du tout. Non, c'est pour le coup, je m'étais, enfin, si quelqu'un m'avait dit quand même, ouais, fais gaffe, fais pas la connerie de sauter quand t'arrives parce que t'auras beaucoup moins de muscles dans les chevilles ou je sais pas quoi. Ah bon, ok, ça marche. Et en fait, bah non, c'est juste que tu boites dans tous les sens, quoi. Et du coup, pour le retour, ce que j'avais fait, c'est que j'essayais de travailler ces muscles-là, donc j'essayais de me mettre debout et faire du surplace. Ouais. Tu vois, marcher. Et je l'ai fait plusieurs fois. Marcher 10, 15, 20 minutes. Et puis ça m'a vachement aidé. Bon, j'avais quand même mal en arrivant, mais beaucoup moins, quoi.
Ouais, okay.
Ouais. Mais par contre, ouais, tu sens que tu tires partout sur ton corps. Hein. Enfin, toi, t'as des irritations de partout. J'avais les mains, mais genre juste explosées. J'avais les couilles toutes bleues. Enfin, tu vois, c'était un peu dégueu, quoi. J'avais des escarres sur le cul. Enfin, tu vois, c'était pas beau à voir, quand même.
Ouais, mais c'est Stéphane qui me racontait tout ça sur sa traversée. Il me dit, t'arrives dans un état, t'as le cul, t'as les fesses défoncées parce que t'as ramé 12 heures par jour, donc voilà, t'as les mains complètement calleuses. Lui aussi a eu très mal au dos.
Au dos, ouais.
Parce que effectivement, à force de ramer, qui est pas une position naturelle, et il me dit, au début tu te corriges, tu fais vachement attention, puis en fait à la fin, quand t'es un peu au mental, quoi, entre guillemets, il me dit tu penses plus à ta technique de rame du tout, et lui il a le dos qui a trinqué un peu, ouais.
Ok, bah écoute, moi, il y a des moments un petit peu quand j'y allais fort, en effet, mais j'essaie de faire hyper attention à ça parce que je savais que si je me défonçais le dos, c'était fini aussi, pareil. Et ça, c'est le seul truc que j'ai travaillé pour le coup avant de partir faire ma première traversée, parce que quand j'ai acheté mon bateau, je suis parti un mois ou un mois et demi après, et j'ai fait genre 3-4 sorties de 2 heures, tu vois, seulement. Mais après, je savais ramer, je connaissais la mer, tu vois, donc j'avais pas besoin de m'entraîner pendant des mois.
T'as fait que 3-4 sorties avant de partir?
Ouais, rapide devant chez moi, tu vois, pour tester le bateau, le retournement. D'ailleurs, j'ai testé le retournement. Donc en effet, le bateau était bien à l'envers, mais impossible de le redresser, tu vois. J'ai jamais réussi à le redresser et mais tu vois, je m'étais dit, bah, mais c'est normal, il y a rien. En fait, il fallait mettre des poids dans le fond, en fait, le lester le bateau. Ouais. Il y avait pas de lest à ce moment-là, il était vide, on l'avait pas chargé. Donc on en avait déduit que c'était ça, et c'était le cas parce que après, bon, j'avais réussi à le redresser en mer tout seul. Mais ouais, donc j'avais fait gaffe à la position.
Ouais.
C'était le seul truc que j'avais travaillé, quoi.
Ouais, la position, peut-être un peu de musculation pour le dos ou...
Bah non, moi j'ai jamais trop fait de musculation. Non, vraiment seulement ouais, la position, quoi. Ouais.
À ce moment-là, tu prends quoi? Tu prends un coach qui te regarde?
En fait, j'ai pris Catherine qui est la copine de Gilles. Et Gilles c'est le dentiste de ma commune à côté là, Tréguier là, et Gilles c'est un super rameur qui avait traversé l'Atlantique aussi en solo. Okay. Canaries aussi pareil, Caraïbes. Et donc lui, il m'a donné quand même pas mal de petits tuyaux, et Catherine, elle, c'est son métier, quoi. Et donc elle m'a expliqué vraiment comment bien me positionner pour éviter de me faire mal, bien m'étirer, bien appuyer sur les cuisses, parce qu'au final c'est un vrai rameur, hein. C'est vraiment sur les jambes qu'il faut pousser et pas sur les bras, quoi.
Ouais.
Bon, après c'est un petit ensemble quand même.
Ouais, il faut que tout fonctionne.
Ouais.
C'est quoi les meilleurs moments? Là, on a parlé un peu des grosses galères, des points un peu durs et sombres, mais...
On parlait de galères, mais on a oublié de parler du moment où... Non, mais à un moment où j'en ai vraiment chié, où là, c'était vraiment dur, si tu veux, mentalement et physiquement aussi. En plus, j'étais pas loin de l'arrivée, j'étais à 360 000 d'arrivée. Et là, j'ai eu des vents et des courants contraires. Enfin, surtout des vents d'est.
Ouais, qui te font reculer,
Qui me font reculer. Et là, pendant... Je crois que c'est 24 jours. Ou 23 jours, j'ai tourné en rond, en fait, avant de revenir sur mon point GPS. Tu vois, sur ma position. Et là, j'en pouvais plus, quoi. Mais vraiment, quoi. Parce que j'étais à court de tout. Et à ce moment-là, tu sais, comme je disais tout à l'heure, je pouvais même plus me faire chauffer ma bouffe, quoi. Je bouffais du yofal froid. C'était dégueu, quoi. Non, mais vraiment. Tu sais, j'étais dans l'humidité, tout était moisi à bord de mon bateau. Enfin, tu vois, franchement, c'était commençait vraiment à être dur. Et sauf que je voyais pas le bout, en fait, et bah pareil, toujours pas de moyen de communication, donc pas trop de possibilités d'avoir des renseignements sur la météo, parfois avec les cargos que je pouvais croiser, mais encore la plupart du temps les cargos ils
s'en foutent.
Bah ouais, enfin en fait ils connaissent pas trop, ils font pas attention à la météo, en fait eux ils tracent. Leur route elle est faite depuis la terre ferme. Et donc ils te disent les conditions au moment présent, mais ça je les vois, quoi. sauf que ça.
Oui merci, je vois qu'il fait beau, là, c'est bon.
Sauf que ça a duré. Et si tu veux, il y a des moments où tu vas ramer, tu vas réussir à avancer, mais à peine. D'autres moments où tu vas ramer, mais tu vas faire du surplace. D'autres moments où tu vas ramer, mais tu vas faire marche arrière. Mais en fait c'est toujours mieux que rien faire, si tu veux.
Ouais.
Parce que tu fais rien, mais il y a des moments, mais je partais à un nœud, deux nœuds de vitesse en arrière, quoi. Et en plus, je partais vers le nord, je partais vers l'Irlande, vers l'Islande. Je me suis dit, putain, mais je vais me retrouver en Islande, là. Comment je vais faire, quoi? Non, mais je te promets, quoi. Et à un moment, j'étais tellement démoralisé, en fait, au bout de plusieurs, enfin, je sais plus combien de temps, 10 jours, 12 jours, Je me suis dit, ok, là, c'est bon, j'en peux plus. Et je me suis remis à ramer. Sauf que je suis parti vraiment à l'opposé. Je suis parti sud-ouest. Donc, okay. Je m'écartais de la Bretagne. Non, mais je te promets. Je m'écartais, mais je m'en foutais. J'avais besoin de ramer. J'étais en train de devenir complètement dingue. Et ça m'évitait de me rapprocher trop proche du nord, quoi. En fait. Ouais. Parce que je voulais surtout pas arriver en Irlande. Parce qu'en Irlande, j'avais pas de cartographie. Je savais qu'il y avait, plein de caillasses là-bas. Et moi, je sais pas pourquoi, je sentais que j'allais partir dans le Grand Nord, finir au Groenland, quoi, limite, quoi. Tu vois, je me dis, ok, je connais le chemin, mais bon, c'est pas le meilleur moment pour y aller, quoi.
Et c'est quoi le plus dur, du coup, dans tout ça? C'est la solitude, c'est l'humidité, c'est le froid, c'est la longueur du truc. Tu dis que tu vas péter un plomb.
C'est l'ensemble, en fait. T'es en prison, quoi. T'es enfermé, en fait. T'es dans un cachot, quoi. Tu peux pas bouger. Te rends compte, t'es allongé. T'es obligé de te caler parce que ça roule tout le temps. Tu dois avoir un bras devant, un bras derrière pour dormir.
Tu t'attaches un peu presque limite, ouais.
À l'intérieur, non, je m'attache pas, quoi. Ouais. Mais tu vois, je peux me mettre assis à un seul endroit. Sinon, tu vois, il faut ramper pour me mettre dans mon lit. Pareil pour sortir. En fait, c'est horrible, quoi, de pas pouvoir bouger, quoi, tu vois. Et surtout de pas savoir quand ça va s'arrêter et de voir ta nourriture qui diminue, quoi.
Ouais,
donc ça, moralement, c'est dur. C'est dur, et puis j'ai eu quand même pas mal de stress parce que j'avais plus de lumière à bord. À partir du moment où je me suis retourné, j'avais zéro lumière. C'est-à-dire que la nuit, quand j'avais pas de moyen de contacter les cargos, parfois je voyais des trucs arriver sur moi, et je me disais, oh putain, il vient vers moi là, tu vois. Et je me disais, putain, fais chier, quoi, je vais me faire rentrer dessus par un cargo, quoi. Et je pouvais pas montrer que j'étais là, quoi.
Ouais.
Et ça, je devais me faire des petits quarts, tu vois, dormir 20 minutes, 30 minutes, de regarder autour et tout, machin. Enfin, ça, au bout d'un moment, c'est un peu relou, quoi.
Ouais, le manque de sommeil qui commence à jouer.
Ouais, non, vraiment.
t'en parles un peu dans le bouquin, mais qu'est-ce que tu fais quand tu pètes un plomb?
Comment tu
réagis?
Comment je réagis? Je gueule un peu, mais en vrai, non, mais je suis assez calme quand même. Je suis assez calme. Sauf que, au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Tu vois, j'ai pleuré une fois pendant ma traversée quand même. Tu vois, je pleure pas facilement, pourtant c'était à la fin, là. À la fin, j'en pouvais plus. J'étais tout près d'arriver là, mais je tournais en rond encore, je faisais des 8. Mais non, tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi je m'impose ça en fait? Tu vois, mais vraiment, quoi. Ouais. Il y a des moments, tu sais, j'aurais payé toute ma vie pour qu'on me sorte de là, quoi. Non, mais vraiment, je te promets, quoi. Mais d'un côté, je dis ça, mais après, on m'a proposé assistance avec les cargos et jamais j'ai accepté, jamais j'aurais pu le faire, quoi.
Ouais.
Enfin, sauf si j'avais eu un gros problème de santé, ça c'est pareil, quoi. Tu vois, t'as un gros souci de santé, heureusement, il ne s'est rien passé, quoi, tu vois.
Ouais.
Parce que, voilà, là, c'est pas bon, quoi.
Ouais, il aurait pu t'arriver plein de trucs, quoi.
Ouais.
Et dormir dans un environnement humide, t'aurais pu respirer. Hein. Enfin, tu vois, ça aurait pu.
Ah, en fait, j'avais des champignons et tout, hein, sur mes draps et tout. Genre, quand je m'allongeais, je regardais, tu vois, je voyais que c'était tout dégueulasse, quoi. Limite, je tapais, ça fumait, quoi, pour te dire, quoi. Et quand tu te mets là-dedans, tu vois, ouais, puis ça a goûté de partout et tout, enfin c'est ouais.
Et t'as essayé de faire sécher les trucs, t'essayes, mais ça sert à rien, quoi.
T'essayes, ouais, mais en fait le sel ça sèche pas, en fait.
Ouais.
C'est ça le problème, c'est l'humidité, quoi.
Ça gratte.
Tu vois, mon sac de couchage, quand je me suis retourné, en fait, jusqu'à la fin, il était rempli de sel, quoi. Et au début, ça te démange, t'as envie de te gratter, et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais non, on te gratte plus, quoi, et t'es juste dégueu tout le temps, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais,
ça c'est incroyable, ça.
Qu'est-ce
qui fait que tu tiens?
Tu tiens parce que t'as pas le choix, en fait.
T'avais le choix, tu vois.
Tu t'engages dans quelque chose, tu vas jusqu'au bout, pour toi, pour les gens qui te soutiennent et vis-à-vis de tes partenaires aussi, tu vois. Ouais, mes partenaires, ils ont pas misé pour que j'arrête en plein milieu de l'Atlantique, tu vois. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais merde, quoi.
Après avoir fait l'aller, tu fais le retour, tu te dis, putain, je viens de me retourner deux fois, j'en peux plus. Tu vis dans un environnement qui est ignoble, quoi. Même une prison, c'est mieux, tu vois. À un moment donné, tu te dis, pourquoi est-ce que je m'inflige ça, quoi.
Écoute, d'un côté, c'est moi qui l'ai choisi, hein.
Ouais, mais
tu vois, donc c'est comme ça, tu fermes ta gueule et t'avances, quoi.
T'aimes à ce point-là être seul?
Ouais, j'aime bien être seul, ouais. Ouais, carrément. Ça, c'est important pour moi.
Ouais.
C'est chouette, ouais. C'est chouette de se retrouver un peu avec soi.
Tu fais quoi quand t'es seul?
Quand je suis seul, qu'est-ce que je fais? Ça dépend quels endroits, mais après, t'es seul, mais tu vois, en mer, au final, t'as plein de choses qui se passent. tu vois, tu me parlais tout à l'heure des belles rencontres que j'ai pu faire, des beaux moments. Tu vois, cette faune, ces poissons qui m'ont suivi, ces requins qui m'ont suivi, ces baleines. J'ai eu des orques, des tortues. Tu vois, je pense même à un footbassin que j'avais nommé Pedro, Paulette Madorane, t'en as entendu parler rapidement, qui est resté des semaines à côté de moi, ouais. Des semaines. Et tu vois, pourtant moi j'adore pêcher, sauf que là j'en étais juste pas capable, quoi, parce que t'es vraiment seul. Et dès que tu vois quelque chose qui bouge de vivant, bam, tu veux créer un lien tout de suite, quoi. Ouais. Et tu gueules, waouh, comment ça va et tout, tu vois. T'as envie d'avoir une conversation, au moment il y a pas de retour.
Tu dis souvent, ça veut dire que
il y en a eu parfois. Non, mais c'est, enfin, tu vois, et tu t'inventes un petit peu une vie, quoi. Tu deviens un peu fou, quoi. Mais d'ailleurs, c'est un truc, tu vois.
Ça fait du bien d'être fou.
Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. Mais tu vois, l'isolement, ça peut être dangereux. Et quand je me souviens, quand je suis parti m'enfermer dans les glaces, on m'avait dit, mais tu sais que tu peux ressortir vraiment vraiment touché, dans le sens où tu peux devenir vraiment fou, quoi. Ouais. Alors déjà que j'étais pas totalement net en partant, tu vois, je me suis dit, mais putain, mais comment je vais ressortir, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Donc faut faire gaffe à ça, quoi. Ouais. Je pense.
Ouais. Et t'as fait gaffe d'une certaine manière.
Écoute, j'ai fait gaffe.
C'est quoi, tu parles tout seul?
Ouais, je me parle. Je me filme pas mal aussi, tu vois, pour essayer de ramener des petites images quand je peux, m'enregistrer aussi, et puis. Et puis ouais, je gueule, et puis dès que je vois quelque chose, tu vois, un oiseau qui me suit, je fais waouh, ouais, comment ça va, d'où tu viens et tout, enfin tu vois, non mais vraiment, quoi, tu vois.
Ouais. Mais tu vois, moi j'adore ce moment, je l'ai pas beaucoup vécu, ouais. Tu vois, dans ma vie, mais tu vois, je pars souvent à crapahuter en montagne, ou je pars souvent avec mon vélo, tu vois, pour plusieurs heures, enfin avant je partais beaucoup.
Ouais.
Et tu sais, j'adore ce moment où tu sais, tu commences un peu à... D'abord, tu te parles un peu tout seul, puis tu commences à parler tout haut, puis d'un seul coup, tu commences à gueuler, à chanter, tu vois. Et jusqu'au moment, tu sais, où les tout débuts, ça fait bizarre, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là, et tout. Et après, tu te dis, mais en fait, c'était super bon.
Ouais, ça t'est dit bien, tu vois.
Et du coup, t'essayes de reprovoquer un peu ce moment-là. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas beaucoup, et pourtant, je suis quelqu'un, tu vois, de très sociable par moment, mais j'ai l'effet complètement inverse, c'est-à-dire que par moment je ne veux voir personne et je fuis un peu le monde, tu vois.
Ouais.
Donc je te comprends tout à fait, tu vois, et t'en parles très très bien, je trouve, dans le livre, c'est hyper intéressant.
Bah c'est bien de pouvoir avoir les deux, en fait. C'est ça qui est top, tu vois. Moi je sens qu'il y a des moments, bah en effet là j'ai fait le plein et j'ai besoin de m'isoler, quoi.
Et ça fait bizarre quand tu rentres.
Ça fait bizarre.
Je demande toujours aux skippers et ils ont tous une réponse différente. Tu vois, le dernier en date qui m'a bien marqué, c'était Arnaud Boissière.
Ouais.
Dont l'épisode sortira juste avant toi.
Ouais.
Et tu vois, Arnaud, il me dit, moi, je suis un être méga, méga social.
Ah bah lui, ouais. Pour le connaître un petit peu.
Bon bah tu vois, c'est un bon. Je savais pas qu'on l'avait en pote en commun, mais il me dit, mais moi, quand je rentre, je termine une course. Je plie tout le monde au bar le soir même.
C'est clair.
Je dis mais t'as pas sommeil, tu dors même par tranche de 20 minutes pendant 100 jours. Et il me dit non, mais en fait je suis tellement excité de retrouver des gens que je fais deux nuits blanches et il se fout une tôle, tu vois.
Mais, ouais.
Enfin, je sais pas, mais tu vois, j'étais pas là pour le voir, mais tu vois, à l'inverse d'autres, où tu vois Armel Lecléa par exemple, c'est un autre personnage.
Ouais, je pense qu'il est plus sérieux.
Il est aux antipodes, tu
vois. Ouais.
Et lui, tu vois, il dit, ouais, c'est dur de se remettre dedans, les sponsors et tout. Bon, maintenant, il a l'habitude, je pense.
Ouais.
Mais toi, comment est-ce que tu réagis quand tu reviens? Tu fais quoi?
Bah déjà, moi, je bois pas, tu vois. Contrairement à Kelly. écoute, moi, j'essaye de me ressourcer chez moi, là, sur ma petite île, là.
Ouais.
Parce que, bah, tu vois, c'est un endroit où on est hyper isolé. Et bah, tu vois, dernièrement, bah, voilà, je suis avec ma famille. Mais sinon, j'étais souvent seul et j'ai des copains pas loin, en fait, si tu veux. Mais j'essaye de faire le truc progressivement. Après, c'est sûr, c'était projeté tout de suite.
Du rhum, tu vas un peu l'avoir, je pense.
Ouais, je vais l'avoir. Mais d'ailleurs, quand je suis rentré de ma traversée à la rame, tu vois, il y avait, je sais pas combien de médias qui m'attendaient. On a fait la une de tout partout, dans tous les sens. Après, c'est aussi important. À partir du moment où tu décides d'en vivre, bah, c'est aussi le jeu, quoi.
Ouais.
Mais tu sais que ça va pas durer, en fait. C'est un petit moment. Ouais. Donc t'essaies de le faire bien. Et puis...
T'as 72 heures intenses et puis après tu reviens progressivement à ta vie.
C'est
ta vie normale. Ouais.
Ouais. Okay. Ouais.
Ouais,
toujours facile de réatterrir aussi, quoi.
Ouais.
Vraiment. Non mais c'est vrai, quoi. Ouais, j'ai mis du temps avant de me remettre de ma traversée, quoi.
Ouais. Tu dormais beaucoup pour récupérer.
Est-ce que j'ai
Parce que j'ai eu ça aussi comme réponse, retour sur Terre, le lit, c'était presque traumatisant ou trop étrange, tu vois.
Enfin, c'est cool, hein, quand même d'avoir, mais moi, quand je suis arrivé, mais laisse tomber, quoi, je me suis pris une bonne douche, j'ai mis des affaires propres, tu sens bon, tu es dans un vrai lit au sec. En fait, ce qui est agréable, c'est d'avoir un vrai sommeil. Tu vois, de te dire, ok, là, je peux vraiment fermer les yeux, il va rien se passer, je vais pas me retourner, tu vois, je vais pas me faire rentrer dedans.
Et t'as pas le syndrome un peu des militaires, tu vois, qui se réveillent en pleine nuit et qui cherchent un flingue, tu vois, parce qu'ils ont le truc.
Non, mais c'est vrai que les premières nuits, je me réveillais quand même, tu vois. Évidemment, je me réveille, j'ai l'impression que je suis encore en mer, quoi, un petit peu, tu vois. Mais quand même, tu sens que tu recharges, quoi, et qu'il était temps, quoi, parce que à la fin, moi, j'étais quand même dans un sale état, quoi.
Ouais, t'as une dette de sommeil importante.
Ouais.
On a beaucoup parlé d'aventure.
Ouais.
Merci d'avoir donné autant de détails, tu vois, sur cette traversée. On va terminer dans pas longtemps, mais je voulais un peu passer sur la suite. Route du Rhum.
Yes.
Dans quelques jours, normalement, tu viendras de partir quand l'épisode sortira.
Ok.
Donc,
trop bien.
Tu seras en pleine mer. Je demanderai à ton équipe de com s'ils peuvent le partager. Ça serait cool.
À fond.
pourquoi passer de l'aventure, de la liberté, de la solitude, du zéro contrainte, à quelque chose de beaucoup plus encadré, beaucoup plus normé. Bon, la route du Rhum, alors je sais que t'as le projet Vendée Globe, c'est avant tout ça, je pense, l'objectif final.
Ouais, complètement, c'est ça à 100%. Ouais.
Et que la route du Rhum, ça reste un petit... Bon, je vais pas dire une petite étape, parce que c'est quand même la course la plus médiatisée et avec le plus de bateaux au monde, je crois.
Ouais, médiatiquement, ouais, complètement. Après, ça reste qu'une transatlantique, hein.
Ouais.
Ça se fait en deux semaines, quoi.
Ouais, bien sûr.
Ça va vite, quoi.
Mais tu vois, c'est très médiatisé. Il y a beaucoup de codes, beaucoup de protocoles.
Ouais.
Je sais que sur ta première, quand t'es parti de France avec ton bateau, t'avais même pas pris de fusée. mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est taré de faire ça? Et là, c'est tout l'inverse, tu vois, en termes de protocoles de sécurité et de prévision.
Ouais, c'est sûr.
Pourquoi ce projet Vendée Globe? Pourquoi ce changement un peu
J'ai fait une rencontre, ce mec c'est Éric Dumont. Dumont, je l'ai rencontré dans les Caraïbes, à Saint-Barthélemy, après ma première traversée. Et Éric Dumont, il a fait plusieurs Vendée Globe, grand navigateur, trop sympa. Et on a vachement échangé, il m'a raconté un peu ses courses, le Grand Sud. Et il m'a dit, putain, mais Garek, le Vendée Globe, c'est une course qui est vraiment faite pour toi, quoi. Et je dis, ah ouais, mais tu penses pour moi, mais attends, mais, enfin, c'est pour les compétiteurs, le Vendée Globe. J'en suis tellement loin, c'est une petite sphère, quoi, tu vois. C'est juste, c'est pas possible, quoi. Tu vois, jamais j'aurais pu avoir la prétention de penser à me dire un jour, bah, peut-être que je ferai le Vendée Globe, tu vois. Et au final, ça m'est resté dans la tête, quoi. Et le Vendée Globe d'après, j'ai vachement suivi. Et celui d'après, je me suis dit, ok, il faut absolument que j'y aille. Celui d'après, c'était en 2018, c'est pile au moment. Non, c'était 2020, pardon. Ouais. 2020.
Puis
moi, j'étais rentré en décembre 2018, tu vois. Et puis j'avais des bouquins qui sortaient, j'avais des conférences, j'avais des films à faire, enfin plein de conneries. Et je me suis dit non, c'est pas le bon moment. Finis ce que t'as à faire et tu verras pour le prochain. Et puis au final, après, je me suis dit non, en fait, je veux repartir à l'aventure. Ça me ressemble plus. Donc j'étais parti, tu vois, sur un bateau d'expédition et à la rame. Sur la première traversée, il y a le Vendée Globe c'était en cours, quoi, si tu veux. Et je suivais à distance avec, entre autres, tu vois, ma copine qui m'envoyait des infos régulièrement. Et je me disais, ok, putain, j'ai trop envie de le faire. Donc j'y vais. Non, mais vraiment, quoi, tu vois. Et donc, là, Alice, qui s'est renseignée sur les bateaux potentiellement qui étaient à vendre en amont de l'arrivée. Et quand je suis revenu entre mes deux traversées, on a vu plein de bateaux. Et là, j'ai flashé sur un qui est le bateau de Benjamin Dutreux, qui a fait un super Vendée Globe avec un bateau d'ancienne génération. Tu vois, c'est pas un bateau dernier cri, un bateau à dérive. Tu vois, l'idée, c'est pas, enfin, de toute façon, j'en ai pas les compétences, j'avais pas le budget. Donc, faut aller faire les choses plus ou moins dans l'ordre, quand même, quoi. Donc voilà, on est parti sur ce canote. Et puis, ensuite, tout s'est enchaîné assez rapidement. Mais c'est une étape de ma vie. Là, je pars sur un Vendée Globe, donc je sais ce que je fais jusqu'en gros juin 2025, si tu veux. Mais, mes partenariats, ils vont jusque là à peu près. Après, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je partirai sur un autre projet? Peut-être. Si c'est le cas, je partirai sur un truc plus compétitif, parce qu'au bout d'un moment, t'as envie d'aller plus vite, t'as envie de de viser un peu plus haut, ce qui est normal.
T'as l'esprit de compète?
Ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais. Quand j'étais jeune, je faisais pas mal de compète, mais plus en planche à voile.
Ok.
Tu vois. Et ouais, vraiment, j'aimais ça. Après, là, c'est difficile de faire de la compétition avec un bateau qui va beaucoup moins vite que les autres, quoi, si tu veux.
Ouais.
Mais après, bon, tu sais jamais ce qui peut se passer. Surtout sur un Vendée Globe. La route est tellement, tellement longue. Mmh. En fait, si tu veux, c'est que c'est pas que une régate, en fait. C'est plein de petites choses. C'est l'autonomie, c'est comment tu vas gérer ton sommeil, comment tu vas gérer ta nourriture, comment tu vas faire pour grimper en ton mat, pour plonger sur ta quille, pour réparer ça. Enfin, tu vois. Donc, il y a plein de petits facteurs qui rentrent en compte. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, moi, vraiment, dans cette course.
C'est le niveau de complexité qu'il peut y avoir et la dose d'apprentissage que tu vas faire, quoi.
Ouais, c'est ça. Je sais que je vais apprendre plein de trucs et voilà, moi, enfin, la mer, ça me passionne. Les bateaux, je connaissais un petit peu, mais au final, très mal, parce que le seul bateau sur lequel j'ai navigué avant, c'était le mien. Non, mais c'est vrai, comme j'ai appris tout seul. Tu vois, enfin, dis-toi que quand je suis parti de chez moi en Bretagne, j'avais un SPI sur mon bateau, un SPI, je savais pas comment ça s'envoyait.
Ouais.
Et c'est à Madère. Où j'ai fait la rencontre, tu vois, de Lucie aujourd'hui qui bosse avec moi, et Lucie qui est trop sympa et qui avait vraiment une grosse expérience en navigation. Et je me suis dit, bah, Lucie, elle est cool, elle va pas se foutre de ma gueule, donc je pourrais lui demander, Lucie, un speed, tu peux me montrer comment ça fonctionne, quoi.
Ouais.
Et tu vois, parce qu'au départ, pour revenir sur ça, tu vois, quand je suis parti de chez moi dans les Côtes d'Armor, j'ai eu des problèmes dans le golfe de Gascogne et j'ai fait demi-tour en Bretagne Sud pour réparer un pilote automatique, tout ça. Et puis j'ai vu des grands marins, tu vois, j'avais croisé François Gavard, Roland Jourdain, qu'on surnomme Bilou. Et lui, j'avais passé pas mal de temps dans son écurie parce que j'aidais à ce moment-là une équipe qui s'appelle Under the Ball à préparer leur bateau. Ouais. Et là, j'étais parti naviguer avec eux rapidement avant qu'ils ils avaient prévu de partir au Groenland, enfin, en même temps que moi, à peu près, si tu veux. Et donc, j'avais passé quelques heures en mer avec eux. Et tu vois, je me souviens de Roland Jourdain qui disait, à ce moment-là, à bord du bateau, non, mais attendez, pour enrouler le génois, vous mettez bien vent arrière, attends, tu reprends là, avant d'ouvrir le taquet, hein, tu vas tout péter, machin. Et je me disais, oh putain, mais mec, il connaît trop de trucs, en fait. Moi, enfin, c'est quoi tout ce qu'il raconte, quoi? J'ai envie de lui poser 1000 questions. Mais d'un côté, j'avais honte, en fait. Tu vois, je me dis, mais attends, j'étais un petit jeune, à ce moment-là, j'avais 21 ans, il va me dire, mais attends, mais enfin, tu pars avec ton bateau, t'es fou,
c'est
quoi.
C'est même pas ça.
Ben non, mais je vais appeler tes parents, tu vas retourner chez toi, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, j'en rigole avec lui, même, tu vois, ça me fait marrer. Mais c'est vrai que, ouais, j'y connaissais rien, quoi. Mais c'est pas bien, hein. Enfin, c'est pas bien. Après, j'avais un bon sens marin, tu vois.
Dis pas ça.
Un bateau, c'est, tu vois, ça s'apprend un petit peu, quoi.
Ouais.
Tu peux pas partir comme ça, seul, sans avoir jamais navigué, comme moi.
Ouais.
Moi, j'ai réussi à le faire, parce que j'ai grandi sur une île, parce que j'ai travaillé sur des bateaux de pêche, parce que j'ai un peu de l'eau de mer qui coule dans les veines, quoi, vraiment, quoi. Non, mais c'est vrai, tu vois. Non, mais c'est vraiment mon truc, quoi. Tu vois, je faisais la planche à voile, donc, le vent, je connais, quoi.
Ouais, bien sûr.
Après, je réglais mes voiles très mal, mais ouais, c'est pas grave. Maintenant, c'est un peu mieux.
Ouais, mais j'ose imaginer. Mais comment t'apprends?
Comment j'apprends? Alors là, t'apprends pas tout seul. Hein. Là, je te le dis tout de suite, sinon tu pètes tout, quoi. Donc là, moi, je suis entouré d'un super coach qui s'appelle Sébastien Andigan. Et Seb, lui, il a le record en tour du monde, du tour du monde en équipage avec Francis Joyon.
Okay.
Il a fait, tu vois, six Cap Horn, plusieurs tours du monde. C'est vraiment un super grand marin. Et hyper humble, très accessible. Je peux lui poser n'importe quelle question.
Ouais.
Et ça, c'est cool, tu vois.
Ouais.
Des questions vraiment de merde. Et il est avec moi. Carrément. Non, vraiment, vraiment. Il voit que je suis motivé. Il voit que je connais un peu les bateaux, mais il y a tellement de choses à apprendre là-dessus. Mais c'est complètement taré, quoi. Mais vraiment,
ouais.
Quoi.
Ouais, parce qu'il y a une dose en plus d'électronique et
aussi, ouais,
qui est hyper forte, que t'avais très peu finalement avant. Ouais.
Ouais. Non, j'avais pas système de ballast, système de dérive qui pivote, enfin de qui avec les dérives. Avec le, je sais pas combien, enfin, on a 8 voiles en course, tu vois, au portant, je peux avoir 700 mètres carrés de toile, tu vois, système de safran aussi, de bastac pour reprendre ton mât à l'arrière. Si tu vires de bord sans reprendre ta bastac, ton mât il tombe.
Ouais.
Enfin, tu vois, ça peut vite être le bordel, quand même. Donc, avant ma première course, tu vois, on avait fait 10 sorties en mer, ce qui est quand même pas beaucoup, quoi.
Ouais.
Et je pensais vraiment être à la ramasse de chez ramasse, et au final, je m'en suis pas si mal sorti que ça, parce que je pensais vraiment être dernier de chez dernier, et puis je sais plus, tu vois, peu importe, mais je suis dans le match quand même, tu vois, je suis dans le match, Et je croche dedans vraiment, quoi. Et je surkiffe, en fait, quoi. Parce que j'ai l'impression d'être sur ma planche à voile, sauf que je suis sur un bateau de 18 mètres, quoi.
Ouais.
Et la sensation est juste folle, quoi.
Ouais, ouais.
Tu vois, c'est...
ça a dû te changer, en plus, comparé à tes précédents efforts où qu'étaient très longs et endurants.
Ouais.
Où là, du coup, tu t'attaques à des efforts qui sont... c'est des sprints beaucoup plus intenses.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors, ça fait marrer quand tu dis, c'est un sprint qui dure 2 semaines, qui traverse l'Atlantique, mais à l'échelle de la voile, c'est un sprint, tu vois, enfin, de la course au large, en tout cas.
Ouais.
C'est un sprint.
Ouais, 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 ben, c'est sûr que c'est un sprint, et t'es à 100%, tout le temps, tout est long, c'est compliqué, mais c'est trop bon, parce que moi, j'adore de me dépenser, tu vois, quand je suis sur ma colonne, quand je sais que pendant une heure, je vais devoir tourner, j'ai le smile, quoi, ça me fait kiffer, quoi, tu vois, ouais. Vraiment. Parce que je sais que, derrière, je vais pouvoir me faire un bon petit plat chaud, je vais pouvoir marcher sur mon bateau, ouais. Tu vois, enfin, voilà, quoi. Il y a du plaisir et surtout, ce qui est agréable, c'est de faire des milles, en fait. C'est pas de me dire, bah voilà, là, je suis à un nœud de moyenne, ouais. Tu vois, demain, putain, je vais faire marche arrière. Bah non, j'avance. Ouais. Je me rapproche de mon objectif, quoi.
Ouais, ça trace.
Ça trace. Et ça, c'est cool, quoi. Quand tu fais du chemin, c'est chouette.
Quels sont les explorateurs, les aventuriers, les marins qui t'ont inspiré, qui t'ont donné un peu ce goût-là. Est-ce qu'il y a quelques noms, des bouquins, des films, tu vois, qui t'ont marqué un peu plus que les autres,
ouais.
Sans rentrer dans l'idolâtrie ou.
Ouais.
Vois,
c'est. Bah, écoute.
Déjà, t'as rencontré du monde, t'as cité plein de bonhommes, donc.
Ouais, ouais, bah là, depuis surtout que je fais de la course au large, un petit peu, ouais, quand même, c'est vrai. Beaucoup d'admiration pour tous ces super marins, quoi. Après, moi, c'est plutôt des aventuriers, des explorateurs d'avant, j'ai envie de te dire. J'aurais aimé être à leur époque, tu vois. Je pense à Shackleton. Tu vois, ouais. Par exemple, Shackleton, quand je lis de son bouquin, tu vois, quand on me dit, t'es un aventurier. Bah, non, mais moi, je suis rien, en fait. Je suis ouais. Microscopique. Non, mais c'est vrai, quoi. Quand tu dis ces histoires de personnes qui partaient, ils savaient pas où ils allaient, tu vois, mais c'est fou, quoi.
Ouais.
Et tu vois, Shackleton, lui, son bateau, il l'a perdu en Antarctique. Il a fini sur un petit bateau à rames. Il a rejoint la Géorgie du Sud. C'est des vraies histoires, quoi, pour moi. Ou Amundsen, qui est le premier marin à avoir fait le passage nord-ouest, tu vois, et qui a fait plusieurs hivernages aussi dans le Grand Nord. Et ça, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Vraiment, quoi.
Ouais. Okay. Bah, écoute, trop bien. Je mettrai les liens dans la description pour les gens qui veulent aller se cultiver. Et c'est vrai que moi, je les ai pas lus encore. Et souvent, ouais. Ils reviennent, tu vois.
Ah ouais.
Arnaud m'en a parlé.
Ok, aussi. Ah ouais.
En plus, tu sais, quand je suis allé le voir, il y avait, c'était au Sable d'Olonne, il y avait le départ de la.
Monde Arctique?
Non, tu sais, la course où ils font ça dans les conditions.
Ah, la Golden Globe Race.
Exactement.
Okay. Ouais, ouais, carrément. Ah ouais, c'est ouf cette course, hein.
Et tu vois, et un homme disait, mais faudrait que je le fasse un de ces 4 ans. Ça a l'air bien, bien sympa. Et dans lequel, effectivement, les gars partent avec les conditions.
Ouais, de l'époque, quoi.
De l'époque.
Et moitié-ci. Tu vois, vraiment, quoi.
Et 5 minutes. Allez, 5 dernières minutes. Bah, allez, je fais la dernière question.
Ouais.
Pour clore ce podcast, on fait toujours, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro.
Ouais.
Je demande toujours le nom d'une athlète et d'un athlète. Je demande une femme et un homme.
Ouais, ouais, carrément.
Pour la parité.
Ouais, ouais, à fond. Ouais. T'as raison.
Pour aller les interviewer, parler d'aventures, parler de sacrées histoires. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir?
Ouais, écoute, il y en a plein, hein. Il y en a plein, c'est difficile comme ça. Un mec qui est impressionnant, c'est Mike Horn, quoi. Je sais pas si tu as déjà eu, quoi.
Bah, mais... c'est dans les petits papiers.
C'est dans les petits papiers, ok. Ouais, ouais, je pense que ça serait vraiment chouette. Tu vois, en navigateur, François Gabart, moi j'ai beaucoup d'admiration pour François. Vraiment, ouais. Grand marin, quoi. Un mec hyper humble.
Ouais.
Vraiment chouette. Et après, en femme, qui je pourrais te dire, je sais pas, Monique, tu vois, ma poule, ça vaut le détour quand même. Elle a 2-3 trucs à raconter, quoi.
Bah écoute, merci pour tout. C'était un super moment. Merci pour tous ces petits détails. Je recommande vivement, effectivement, les auditeurs d'aller lire le bouquin parce que il vaut le coup. Moi, je vais aller rattraper mon retard et lire le premier, du coup.
Le premier, ouais. Est-ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on a fait d'autres livres avant sur la première aventure qui sont sympas aussi, ouais.
Ouais. T'en as fait combien, du coup?
Bah, en fait, sur le premier tour du monde, on a fait 2 livres. On a fait un récit publié chez Flammarion. Un carnet de bord chez Artaud. Donc carnet de bord, ça va être de la photo, du texte, des illustrations, un livre assez complet. Et après, ouais. On a fait un livre enfant chez Hachette aussi.
Ok.
On s'est chauffé, hein, t'as vu.
Ne blague pas. Momo, on sait ce que tu fais quand t'es de retour en terre, et on voit que tu chômes pas non plus, quoi. Écoute, trop bien. Merci infiniment, Guirec. C'était un grand plaisir de faire cette interview. Et comme on dit par chez moi, il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
Pas mal.
À bientôt.
C'est cool. Merci pour ton invitation.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.